18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Soyez les bienvenus dans votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le choc de la journée, la méprise, la fausse piste. L'homme arrêté hier à Glasgow n'est donc pas Xavier Dupont de Ligonnès. Entre enquête et emballement médiatique, on revient sur cette affaire exceptionnelle. 18h30, on refait l'actu avec le journaliste et spécialiste de l'islamisme politique. Mohamed Sifaoui réagit à la société de vigilance souhaitée par Emmanuel Macron. 18h50, une chanson dans la tête. Avec la folie des années 80, trois tournées qui repartent simultanément, on va replonger avec délice pour certains dans cette décennie. Fabien Lecoeuvre est avec nous. 19h15, quelle stratégie pour les Républicains qui se cherchent un chef ce week-end? Pascal Perrineau nous rejoint. 19h20, l'écho de la planète avec ce député vent debout pour faire interdire les nitrites dans la charcuterie. Voilà une partie du sommaire de ce 12 octobre et le journal pour commencer avec vous. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est au juste 18h.
On arrête quelqu'un sur des simples présomptions, sur une dénonciation, et on ne va pas plus loin et on l'accuse. C'est grave, c'est grave.
L'ADN a donc parlé. Europe 1 vous le révélait dès la mi-journée. L'homme arrêté en Écosse hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Dans un instant, les explications de Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1.
Les habitants de Rouen, de nouveau dans la rue aujourd'hui, ils réclament toujours plus de transparence des autorités.
À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si notre région a été impactée et comment elle a été impactée. C'est vraiment, il y en a marre, quoi.
Dans ce journal, nous serons à la frontière entre la Turquie et la Syrie. L'offensive turque contre les Kurdes continue. 100 000 personnes ont déjà fui les bombardements.
Et puis cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux, un élu RN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui exige qu'on fasse sortir une femme voilée qui accompagnait un groupe d'enfants.
Je vais vous demander, au nom de nos principes laïcs, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît.
On est ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1.
Depuis hier soir, on se demandait, Fabienne Lemoyle, qui était donc l'homme arrêté à sa descente d'avion à Glasgow, en Écosse? Eh bien, l'ADN a parlé.
Les Europe 1 vous le révélaient dès le journal de la mi-journée. Cet homme, Guillaume Bié, n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 8 ans.
Exactement, c'est la science qui a parlé, la génétique, l'ADN, que certains appellent à tort d'ailleurs la reine des preuves, mais en l'occurrence pour identifier assurément quelqu'un, c'est la technique la plus fiable. Et donc le résultat de la comparaison ADN s'est avéré négatif. Le suspect intercepté hier à l'aéroport de Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que dès hier soir, quand l'information de sa probable arrestation est sortie, toutes les sources que nous avons contactées gardaient toujours une certaine prudence, et le procureur de Nantes également, parce qu'en matière d'enquête et de police judiciaire, tant qu'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de certitude. Et hier, cette comparaison ADN, hier soir, n'avait pas encore été faite, d'où la prudence et la retenue de certains enquêteurs et responsables de la PJ. Sachant que dans le même temps, la police écossaise avait comparé les empreintes digitales du suspect à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, et que les Écossais ont annoncé à la France que ça matchait, que les empreintes digitales correspondait. Or, on sait maintenant que c'était un faux résultat positif parce qu'en réalité, en Écosse, il a suffi de 5 points de convergence pour considérer que les deux empreintes correspondaient, alors qu'en France, le minimum, c'est 12 points de convergence, 12 points communs, si vous préférez, entre deux empreintes. Donc la réponse positive des Écossais hier soir reposait en fait sur une analyse partielle. Il fallait de toute façon l'ADN pour avoir une certitude, et c'est maintenant le cas, c'est négatif.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1.
Alors ce qui a fait grandir les doutes sur l'identité de l'homme arrêté en Écosse, ce sont aussi les témoignages des voisins de Guy à Limay, dans les Yvelines.
En particulier Jacques, qui avait confié à Jean-Gabriel Bourgeois cette nuit que les enquêteurs faisaient une boulette, que son ami Guy, arrêté donc en Écosse hier, n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Et forcément, c'est avec une grande joie qu'il a accueilli ce dénouement.
Grand soulagement, malgré qu'on savait pertinemment que ce n'était pas lui. Et puis maintenant, à savoir comment Guy et son épouse vont se remettre de cette galère dans laquelle ils ont été, malgré eux, et par un manque, je pense, ça c'est mon avis personnel, un manque de sérieux des différentes polices françaises et puis écossaises. On arrête quelqu'un sur des simples présomptions, sur une dénonciation, et on ne va pas plus loin et on l'accuse. Pour s'apercevoir le lendemain, comme je l'avais dit, que c'était un pétard mouillé, que c'était pas lui, quoi. C'est grave, c'est grave. Mais bon, soulagé parce que voilà, ça y est, on sait qu'il va retrouver ses proches et ça, c'est bien ça.
Voilà, Jacques, un voisin à Limay de cet homme qui a donc été arrêté hier après-midi en Écosse, qui se trouve toujours à Glasgow, qui a été entendu par les policiers français et écossais. On rejoint justement en Écosse notre envoyé spécial Johanna Chabaz. Vous vous trouvez devant le commissariat où cet homme se trouverait depuis hier soir.
Oui, et il est très difficile de savoir où en est l'interrogatoire de Guigy. Est-ce qu'il est toujours entendu par les enquêteurs? Est-ce qu'il est dans le bâtiment? C'est impossible à dire parce que la police écossaise ne communique pas. Elle reste extrêmement prudente. Elle n'a même pas officiellement confirmé que l'homme arrêté n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Pour les policiers écossais, l'enquête est toujours en cours et ils cherchent encore à vérifier l'identité du suspect. Ce qui est sûr, c'est que la police écossaise est à l'origine de l'arrestation de Guigy hier soir. C'est elle qui a reçu un témoignage disant que Xavier Dupont de Ligonnès partait de l'aéroport de Roissy pour arriver à Glasgow. Elle l'a ensuite transmis aux enquêteurs français qui sont arrivés trop tard sur place à Paris et donc les Écossais sont intervenus à l'arrivée de l'avion. Des enquêteurs français seraient d'ailleurs en ce moment même dans le commissariat. Ils pourraient s'exprimer dans la soirée sur l'avancée des investigations.
Johanna Chabaz, envoyée spéciale à Glasgow pour Europe 1.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce soir, sur ce qui est donc une méprise au bas mot, puisqu'on le répète, l'homme arrêté en Écosse n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. On y reviendra dès 18h15 avec notre invité Jean-Marc Bloch, ancien directeur de la SRPJ de Versailles.
Il est 18h05, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
On prend maintenant la direction de Rouen avec une nouvelle manifestation cet après-midi. Des habitants toujours aussi défiants à l'égard des autorités, deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol et malgré la venue hier encore de trois ministres sur le terrain.
Et c'est Hélène Terzian qui a suivi le cortège pour Europe 1.
Plus de 15 jours après, les slogans, les pancartes et les masques sont toujours là, mais après l'émotion, le choc, le temps est à la transparence, insistent les riverains, lassés comme Myriam de devoir aller à la chasse aux informations.
C'est illisible quand on essaie de voir sur Internet les résultats de la préfecture, c'est vraiment faut être chimiste. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si notre région a été impactée et comment elle a été impactée, c'est-à-dire de quel produit, qu'est-ce qui va s'en suivre surtout. C'est vraiment, il y en a marre, quoi.
Et ce n'est pas la venue hier de trois ministres pour un comité de transparence qui apaise leur colère. Inès est membre du collectif Lubrizol qui regroupe plusieurs milliers de riverains. Ils n'étaient pas invités à ce comité.
C'est quoi cette transparence? C'est pas de la transparence. Même en tant que citoyen, n'importe quel citoyen aurait pu rentrer pour moi à cette réunion. Ça pousse à manifester, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans la rue, parce qu'on aimerait bien être entendu une bonne fois pour toutes.
Des manifestants qui continueront de mettre la pression dans la rue, disent-ils, tant qu'il le faudra. Rouen et l'Interzian, Europe 1.
Autre manifestation cette fois à Paris, Fabienne Lemoyle, plusieurs milliers de personnes venues manifester leur soutien aux Kurdes de Syrie qui doivent faire face à l'offensive turque depuis mercredi.
Et ce sont déjà plus de 100 000 personnes qui ont fui les bombardements selon les Nations Unies. On retrouve à la frontière entre la Syrie et la Turquie notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. Et les opérations militaires se poursuivent, Jean-Sébastien.
Et en plus des opérations au sol, l'armée turque continue de pilonner à distance les forces kurdes. Principal objectif de l'artillerie positionnée ici à Akçakale, la ville de Tall el-Abyad. Elle est à peine plus d'un kilomètre d'ici, parfaitement visible sur cette vaste plaine. Une plaine où s'élèvent parfois de minces colonnes de fumée. Elle témoigne des combats qui s'étalent sur le nord de la Syrie, sur toute la zone défendue par les forces kurdes. Celles qui ont combattu contre Daesh et que les Turcs considèrent comme terroristes. Des forces kurdes qui ont riposté ces derniers jours par des tirs d'obus. Les quartiers d'Akçakale qui bordent la frontière ont été touchés. Certaines maisons ici se trouvent face au barbelé qui sépare Turquie et Syrie. Là, les rues sont quasiment désertes, volets fermés, rideaux de magasins tirés. Seuls quelques petits groupes de personnes se forment à mesure que l'on s'approche du centre-ville. Des groupes d'hommes principalement qui répètent en boucle leur soutien à l'opération de l'armée turque pendant que des haut-parleurs les abreuvent de chants nationalistes.
Jean-Sébastien Soldaini à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et ce soir, l'Allemagne annonce qu'elle stoppe sa livraison à la Turquie d'armes qui pourraient être utilisées dans le nord-est de la Syrie contre les Kurdes, annonce faite par son ministre des Affaires étrangères.
La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis hier soir. On y voit un élu du Rassemblement national exiger de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qu'elle fasse sortir une mère d'élèves qui porte un voile.
Racontez-nous, Théo Manval, ce qui s'est passé exactement dans ce qui était au départ une simple sortie d'une maison de quartier.
Oui, un groupe d'enfants d'une dizaine d'années venus de Belfort, invités à assister au débat du Conseil régional. Lorsqu'il s'installe dans la tribune réservée au public, l'élu RN Julien Oudoul remarque que l'une des mères qui accompagne la sortie porte un voile noir sur la tête.
Je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici. C'est une provocation insupportable. La vigilance citoyenne, c'est aussi ça, madame la présidente.
Vous l'entendez, les débats s'enveniment. La présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté prend le temps d'examiner les textes. Ni le règlement intérieur du conseil régional, ni la loi, explique ensuite Marie-Guitte Dufay, n'interdisent effectivement le port du voile dans cet hémicycle.
La loi interdit les signes de distinction dans le milieu scolaire. Elle n'interdit pas dans l'espace public. Donc la loi n'interdit pas. Il n'y a aucune raison que cette personne sorte.
Là-dessus, les élus du Rassemblement national se lèvent et quittent la séance. Le groupe d'enfants fait rapidement de même. Certains en pleurent, selon les journalistes de la presse locale. La directrice de la maison de quartier que nous avons pu joindre ne souhaite pas réagir. Elle regrette, je cite, d'avoir été instrumentalisée par des groupes politiques. Dans un communiqué, la présidente de région évoque, elle, la possibilité de porter plainte après ce qu'elle qualifie, je cite, de déferlement de haine.
Théo Manval. Des principes laïcs à respecter à la stigmatisation de l'islam, c'est un sujet qu'on évoquera aussi avec, à partir de 18h30, Mohamed Sifaoui, qui publie Taqiya, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France aux éditions de l'Observatoire. C'était le journal présenté par Fabienne Lemoyle sur Europe 1. À demain. Merci Fabienne.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcaDB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcaDB vous présente la météo.
Qu'est-ce que ça donne dans le ciel, Valérie Darmon? Demain, il va continuer de faire chaud au sud, en tout cas. Bon pour une mi-octobre, en effet.
Absolument. Et demain matin, les températures oscilleront entre 11 et 17 degrés, jusqu'à 18 à 19 dans le sud. Et l'après-midi, il fera 16 à 22 du nord au nord-ouest et 21 à 27 ailleurs, jusqu'à 30 dans le sud-ouest. Alors je vous donne quelques maximales en ce dimanche. Encore 31 à Mont-de-Marsan, 30 degrés à Agen, 29 à Bordeaux et à Tarbes, 27 à Brive-la-Gaillarde et Clermont-Ferrand, 25 à Marseille, à Strasbourg et à Lyon, 24 à Paris et Carcassonne, 21 à La Rochelle et à Évreux et 17 à Quimper. Côté ciel, il fait encore plus beau qu'aujourd'hui, du sud-ouest à la Lorraine, jusque dans l'est et le sud, exceptant Languedoc, toujours en proie aux entrées maritimes, et au nord de La Rochelle jusqu'en Champagne, le temps qui restera très nuageux, avec des pluies ou des averses passagères.
Merci Valérie Darmon. À tout à l'heure, 18h30 sur Europe 1. À suivre, Wendy Bouchard dans ce grand journal du soir.
Retour sur l'incroyable affaire du pont de Ligonnès, nouvelle fausse piste, nouvelle méprise. Jean-Marc Bloch, notre invité, réagit dans un instant, ancien directeur du CSRPJ de Versailles. À tout de suite.
Europe 1, le grand journal du soir. Wendy Bouchard.
Il est 18h13, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Wendy Bouchard avec votre invité. Maintenant, vous revenez sur cette méprise autour de l'arrestation d'un homme à Glasgow.
Méprise, c'est le terme en effet. D'où viennent ces erreurs en cascade sur la base d'une dénonciation anonyme? On va laisser le temps aux enquêteurs de Glasgow et de Paris de remonter maintenant le fil des responsabilités, alors que le mystère du pont de Ligonnès reste entier à l'heure où nous parlons. Bonsoir Jean-Marc Bloch.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Vous qui êtes ancien directeur du SRPJ de Versailles, vous êtes un grand connaisseur de la police judiciaire. D'abord, à qui profite cette méprise, ce raté terrible, si j'ose dire? Parce que si cet homme est vivant, et vous le pensez, au fond, il est probablement dans la jubilation ce soir.
Ben, je ne sais pas s'il est dans la jubilation, mais ça doit effectivement le faire sourire dans la mesure où il a pu apprendre cette méprise. C'est une méprise alors qui est due sûrement à beaucoup de facteurs, une combinaison de facteurs, une précipitation peut-être dans l'information. Là, on voit tout à fait qu'il y a un enchaînement. On ne vérifie pas ni la police ni la presse n'a vraiment vérifié la fiabilité de cette information. C'est parti à toute vitesse et là, j'ai l'impression que ça a échappé à tout le monde.
Oui, c'est à chacun maintenant de faire son examen de conscience. Nous avons été très scrupuleux et je salue le service police-justice d'Europe 1 d'avoir toujours parlé au conditionnel et d'avoir été prudent comme notre métier l'exige. Ouais. Aujourd'hui, on travaille avec ces sources, police écossaise, police française, des sources qui sont aujourd'hui en interrogation aussi, Jean-Marc Bloch, manifestement.
Oui, absolument. Tout à fait. Ben, vous savez, on parle beaucoup quand on travaille. On a aussi bien vous que nous des sources qui sont des sources dites confidentielles, c'est-à-dire des sources dont on ne peut pas faire état, parce que si on en fait état, on les grille.
Bien sûr.
On ne peut plus, elles ne serviront plus. Donc c'est quelque part une information on fait confiance à son informateur, entre guillemets, celui qui fournit l'information, mais on ne peut pas tellement aller plus loin. Donc c'est quand même assez dangereux, d'autant que, alors normalement, on prend le temps de recouper, de vérifier, etc. Mm-hmm. Mais là, c'est vrai que pour un tel événement, parce que c'est l'ampleur de l'information, quelque part, du pont de Ligonnès, c'est une affaire exceptionnelle, comme l'a été l'affaire Villemain, etc. C'est le genre de truc qu'on peut probablement assez difficilement retenir.
Oui, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, Jean-Marc Bloch, parce que l'affaire est tellement exceptionnelle et les fausses pistes ont été tellement nombreuses qu'on ne comprend pas aujourd'hui comment cette précipitation, cette absence de prudence a pu être possible.
Ben, c'est ça qui est difficile à comprendre. Alors, si vous voulez, en plus, il y a deux pays en coopération peut-être pas très bien comprise quelque part. Il y a d'un côté la France, de l'autre l'Écosse, avec des méthodes, et c'est ça moi qui m'a étonné le plus, avec des méthodes d'identification des gens qui sont pas forcément les mêmes. Nous, on parle toujours de 12 points, en ce qui concerne les empreintes digitales, hein, de 12 points de comparaison. Il faut qu'il y ait 12 points qui soient identiques pour qu'on puisse dire c'est très vraisemblablement la même personne. Et là, il semblerait que les Écossais, en ayant 5 points identiques, ont pu dire c'est vraisemblablement la même personne. Donc, on a déjà un écart, si vous voulez, de la fiabilité.
Et c'est important que vous reveniez sur ce point-là, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le degré d'exigence n'est pas le même.
Ouais, n'est pas le même, le degré d'un pays à l'autre. Alors, ça pose quand même des problèmes. Au-delà du pont de Ligonnès, c'est quelque part un fait divers, c'est un fait unique, etc. Mmh. Mais on est dans une période du terrorisme. On cherche à identifier des gens, à savoir où ils sont, etc. Et là, à mon avis, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Que si, d'un pays à l'autre, on n'est pas très loin entre l'Écosse et nous,
c'est
pas le bout du monde, on n'arrive pas à avoir les mêmes critères pour identifier quelqu'un, c'est donc que, comme disent les spécialistes, il y a des trous dans la raquette. Hein. On n'est pas...
Dans le cadre d'Europol, il faut avouer que c'est inquiétant pour la population qui attend beaucoup les inquiéteurs.
Je pense que vraiment, on devrait, au niveau européen, revoir nos normes, avoir les mêmes normes. Parce que c'est des trucs techniques, hein, ce n'est pas des trucs législatifs, ce n'est pas des trucs compliqués à
bien
faire.
Bien sûr. Hein. Ou ça veut dire, Jean-Marc Bloch, qu'il faut aussi abandonner peut-être cette technique d'identification et ne se fier aujourd'hui quasiment exclusivement qu'à l'ADN ?
Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une technique, je crois qu'il y a plusieurs techniques et qu'il y ait le cumul des techniques qui permet d'avoir une identification certaine. Hein. Ce n'est pas du tout. C'est exactement comme quand on dit l'ADN a remplacé l'aveu, etc. C'est pas vrai. Tout ça va ensemble, ça se complète. Hein. La chimiothérapie remplace pas la radiothérapie, etc. Tout ça, ce sont des méthodes qui se complètent pour arriver à un résultat. C'est pas parce que quelque chose de nouveau arrive, entre guillemets, sur le marché, l'ADN est arrivé dans les années 90 sur le marché, que ça a détrôné les empreintes digitales. Non, pas du tout. C'est un plus. Mais ça ne retire rien à ce qui existait avant.
Je voudrais que vous nous parliez aussi en qualité d'ancien du 36 Quai des Orfèvres et d'ancien directeur du SRPJ de Versailles sur aussi la difficulté de traquer les personnes en cavale. Ça nourrit probablement aussi beaucoup de fantasmes, notamment la transformation, la chirurgie esthétique, tout ce qu'on a pu entendre.
Alors là aussi, on mélange beaucoup de choses. Il y a des cavales qui sont les cavales de voyous. Qui sont en échec sur un braquage ou un trafic de stupes. Et là, ils sont dans l'immédiateté, il faut se sauver tout de suite parce qu'ils risquent d'être arrêtés, ils veulent échapper à la police, échapper à la justice le plus rapidement possible. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie cavale. C'est une cavale qui coûte cher, il faut avoir des complices, parce qu'il n'y a rien de préparé. Alors qu'en ce qui concerne Dupont de Ligonnès, ce n'est pas une cavale, c'est une fuite. Ce n'est pas du tout la même chose. Dupont de Ligonnès, il a préparé son acte. Des mois et des mois, enfin, si c'est bien lui l'auteur, parce qu'il y a la présomption d'innocence, ne l'oublions pas. Si c'est lui qui est l'auteur de ce quintuple meurtre, c'est quelque chose qui a été tout à fait préparé. C'est pas quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose d'improvisé. Ces meurtres ont été préparés. Et ensuite, la fuite, elle est préparée aussi. Elle n'est pas du tout faite. Elle n'est pas due au hasard. Il y a un moment de rupture. La rupture, elle se fait à Brune-sur-Argence. Là, quelque part, devant cette caméra à l'extérieur du Formule 1, il dit au revoir. Et à mon avis, c'est là où Dupont de Ligonnès n'est plus Dupont de Ligonnès, c'est monsieur, je ne sais pas qui, ça pourrait être un nom écossais, mais ça peut être aussi un Américain, que sais-je. Il a probablement une autre identité qu'il a déjà préparée et probablement un point de chute qu'il connaît, que lui seul connaît à ce moment-là. Mais Dupont de Ligonnès, à partir de ce moment-là, a disparu. C'est ça le problème. C'est que ça a été préparé, il y a un point de rupture et c'est quelque chose qui a été préparé.
D'où votre intuition, vous considérez que pour vous, il est encore vivant. Ces affaires...
Écoutez, ce serait étonnant qu'il ait fait tout ça, qu'il ait prémédité tout ça de cette façon, qu'il ait retardé les recherches de la police en répondant aux SMS, en envoyant des lettres, etc.
Oui,
etc.,
tout ça pour ça.
Tout ça pour se suicider après. En général, dans les drames familiaux, l'auteur des homicides se suicide dans les 5 minutes ou 10 minutes qui suivent. C'est une espèce de crise qui atteint son paroxysme avec... Mais là, ce n'est pas le cas du tout. C'est très froid, c'est très calculé, c'est très méthodiquement fait. Donc, ce n'est pas pour se suicider, je ne pense pas.
Quelques mots pour terminer, Jean-Marc Bloch, parce que les enquêteurs vont travailler sur les fils des responsabilités, je le disais, mais aussi sur la personne à l'origine de la dénonciation. C'est une affaire qui attire, qui excite la curiosité, les instincts de vengeance aussi, probablement. Il faut quand même avoir l'esprit sacrément tordu et morbide pour dénoncer sur ce type d'affaires, comme ce fut le cas.
Vous savez aussi bien que moi, la dénonciation, c'est quelque chose d'assez banal. On l'a vécu dans plusieurs périodes de notre histoire, dans des situations extrêmement différentes les unes que les autres. Mais dès qu'il y a des tensions entre les gens, tout le monde est prêt à se balancer. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible, d'assez odieux. C'est comme ça. Hein.
Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a une dénonciation dans le cadre de l'affaire du pont de Ligonnès, j'entends.
Ben non, pas du tout. Il y a eu la police nantaise, enfin les SPJ de Nantes, il y a eu plus de 1000, en fait, sont partis sur plus de 1000 Dupont de Ligonnès, si vous voulez, sur 1000 informations différentes. Oui. Il y en a pas mal qui viennent de dénonciations. Bien sûr.
Merci.
C'est un sport national,
merci Jean-Marc Bloch. Merci pour ces précisions.
Je vous en prie.
L'ancien directeur du SRPJ de Versailles. Merci beaucoup.
Le Grand Journal du Soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Dans un instant, Wendy, on fait un point sur les sports.
L'actualité des sports, absolument, avec Christophe Lamarre et Lionel Rousseau pour nous informer du match France-Turquie demain. À tout de suite.
18h-20h, Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1.
18h23, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Wendy Bouchard et c'est l'heure maintenant du journal des sports.
Toute l'actualité sportive avec vous, bonsoir Christophe Lamarre.
Bonsoir Wendy.
Et à la une de ce 12 octobre, on vous écoute.
Courir le marathon en moins de 2 heures, ce qui hier paraissait impensable de l'ordre de la science-fiction, est aujourd'hui une réalité. Le Kenyan Kipchoge est donc cet homme capable de courir vite sur une longue distance. Même quand elle joue mal, elle gagne. La France n'est plus qu'à un match d'une qualification pour l'Euro. Il faudra battre la Turquie lundi soir. Et ça tombe bien. Les Bleus ne pensent qu'à ça.
Il est donc entré dans l'histoire de l'athlétisme, cet homme qui, pour la première fois, a couru le marathon en moins de 2 heures.
Qu'importe que le record soit ou non homologué, il ne le sera pas d'ailleurs. Imaginez un peu, 1 heure, 59 minutes et 40 secondes pour boucler un marathon de 42 km 195 organisé à Vienne. Oui, ça fait vite. Eliud Kipchoge est donc le premier homme, non pas à marcher sur la Lune, mais à courir sous les 2 heures. Un exploit immense, selon notre consultant athlétisme, Jean-Claude Perrin.
Vous savez, on a toujours besoin de points de référence et 10 secondes sur 100 mètres, le mur du son ou alors le record du monde du miles, on a toujours eu des points de repère. Et les 2 heures au marathon avaient toujours été quelque chose qui appartenait au grand, grand futur, puisque les scientifiques pensaient qu'il faudrait de très, très nombreuses années, sûrement la fin du siècle, pour voir un homme courir 2 heures. Et puis là, Bekele, il y a 8 jours à Berlin, et maintenant Kipchoge à Vienne. Donc, des exploits impossibles, mais qui ont été réalisés.
Jean-Claude Perrin, notre consultant athlétisme, qui a toujours par devers lui sa petite table de chronométrage. Ouf, il a calculé, ça génial. Fait donc 21 km/h de moyenne, et cela revient à parcourir 100 mètres en 17 secondes. C'est pas mal. Oui, pendant 42 km en 95.
Très parlant. Merci. Football maintenant. Mission accomplie pour les Bleus en Islande. Les voilà au repos à Clairefontaine. Enfin, presque au repos, disons.
Oui, il y a quand même un match à préparer. Ce sera lundi soir contre la Turquie au Stade de France. Les Bleus ont repris l'entraînement, mais ont déjà en tête ce rendez-vous effectivement face aux Turcs, qui les avaient battu 2-0 à l'aller. Il y a comme une petite envie de prendre sa revanche chez certains, à commencer par le défenseur Clément Langlais.
Si on fait le même match qu'en Turquie, on ne prendra pas de points lundi. Donc on a vraiment envie de faire autre chose, de montrer qu'on est passé à côté de ce match et qu'on a envie de l'effacer, même si ça restera, mais de le mettre un peu plus loin dans nos mémoires. Et voilà, on a vraiment la volonté de faire un bon match. Il y a une préparation à faire sur ce match et c'est déjà se concentrer sur ça avant de vite mettre sa tête sur le match de la Turquie.
Clément Langlais au micro de Cyril de la Morinerie.
Un match France-Turquie lundi au Stade de France. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Avec une sécurité évidemment renforcée, on l'imagine, dans un contexte très très violent quand la politique rejoint le foot.
Et la politique internationale s'invite en effet avec le contexte turc et les Kurdes. Assauts turcs effectivement en Syrie sur les Kurdes. Et puis aussi, on se souvient qu'au match aller, l'équipe de France avait été très mal accueillie par les Turcs. La Marseillaise avait même été sifflée, les joueurs avaient été sifflés. Alors en effet, les Français avaient été battus, mais on se souvient qu'on avait frôlé l'incident diplomatique. On sait qu'il y a une communauté turque très forte également en France et que les Turcs seront très nombreux au Stade de France lundi. Le match sera à suivre sur l'antenne d'Europe 1. Voilà pourquoi la sécurité est renforcée. Voilà pourquoi, dans le contexte politique que l'on connaît, ce match peut être un match à haut risque, évidemment sur fond politique, mais également d'un point de vue sportif, car c'est une finale. Si la France s'impose, on le rappelle, elle sera qualifiée définitivement pour l'Euro 2020.
Et vous en reparlerez ce soir dès 20h. Europe 1 Sport, Lionel Rousseau. Merci Christophe.
Pendant ce temps, l'Olympique lyonnais profite de la trêve internationale pour se chercher un entraîneur. Ce sera peut-être Laurent Blanc, puisque la piste devient de plus en plus sérieuse. L'ancien sélectionneur des Bleus et entraîneur du PSG a rencontré le président Jean-Michel Aulas. Les discussions vont se poursuivre, notamment autour de la composition du staff. Laurent Blanc aimerait bien venir avec un adjoint qui n'est autre que Jean-Louis Gasset, l'ancien coach de Saint-Etienne. Et puis en Italie, Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur de Monaco, Chelsea et l'Inter, va s'occuper désormais de la Fiorentina. Il n'entraîne pas. Mais attention, il ne sera bientôt plus disponible. Luis Fernandez va intégrer le staff d'une équipe de la Liga espagnole, le championnat d'Espagne. Le Français occupera les fonctions de coordinateur sportif. Mais encore, allez-vous me dire qui, où, quoi, comment, quand ? Eh bien, vous le saurez demain soir à partir de 20h sur Europe 1. Luis Fernandez est l'invité exceptionnel de Lionel Rousseau dans l'émission Face aux auditeurs.
Allez, 20 secondes pour le reste de l'actualité sportive, en bref.
Allez, juste un mot, le cyclisme, Bauke Mollema remporte le Tour de Lombardie. Le Néerlandais s'impose en solitaire avec une quinzaine de secondes d'avance devant Alejandro Valverde et Egan Bernal. Et juste ça, parce qu'il faut saluer cette femme exceptionnelle qui s'appelle quand même Simone Biles. Elle s'offre un 17e sacre aux Mondiaux de Stuttgart et avec 23 médailles au total. Elle égale le record détenu jusqu'à présent par le Bélarusse Vitaly Sherbo.
Merci, à tout à l'heure, 19h15. Christophe Lamarre pour les suites de l'actualité sportive.
La suite de votre grande journée du soir, c'est l'info en bref. Le rappel des titres dans un instant, la météo de Valérie Darmon et puis on refait l'actu, on va parler politique.
Wendy. Avec Mohamed Sifaoui qui publie Taqiya, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France. On revient avec lui sur l'appel d'Emmanuel Macron à bâtir une société de vigilance, notamment. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir.
Et voici l'essentiel de l'actu avec vous, Sophie Tussaud.
Bonsoir. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. L'homme interpellé hier à Glasgow et un temps pris pour Xavier Dupont de Ligonnès a été remis en liberté ce soir. C'est ce qu'annonce la police écossaise. Moins de 24 heures après l'annonce de son arrestation, le verdict est tombé. Il s'agit d'un retraité habitant dans les Yvelines et marié à une écossaise et non pas de l'homme soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes. Les tests ADN l'ont confirmé après un doute sur ses empreintes digitales. Plusieurs milliers de personnes, des anonymes et personnalités rassemblées place de la République à Paris cet après-midi. Un soutien aux Kurdes de Syrie visé par une offensive turque. 20 000 personnes selon les organisateurs ont dénoncé un nettoyage ethnique entrepris par Ankara. Autre rassemblement à Marseille où des milliers de Kurdes sont descendus dans la rue. Et sur le terrain, les bombardements se poursuivent. La Turquie affirme avoir pris la ville clé de Ras Al Ain dans le nord de la Syrie, ce que démentent les Kurdes. Des échauffourées à Toulouse aujourd'hui lors d'un rassemblement des Gilets jaunes. Acte 48, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser le cortège. Des vents violents et des pluies diluviennes s'abattent sur le Japon. Le puissant typhon Agibis se dirige vers Tokyo. Au moins deux personnes ont été tuées. 3,2 millions d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer.
Merci Sophie.
Europe 1, 18h31.
Le temps pour demain. Un petit point encore, Valérie Darmon.
Eh bien, ce dimanche, la perturbation arrivée ce samedi par l'ouest s'étendra des Charentes aux côtes de la Manche jusque dans l'est où vous aurez des pluies parfois soutenues et même orageuses. Le ressenti sera lourd dans l'après-midi avec des températures élevées, de l'humidité dans l'air. Vous bénéficierez d'un temps plus clément partout ailleurs avec du soleil dans le sud, excepté en Languedoc-Roussillon, où les entrées maritimes seront de plus en plus envahissantes au fil des heures, donnant même des averses sur les Cévennes. Les maximales gagnent même quelques degrés sous l'effet du soleil, entre 18 à Rennes et 31 à Saint-Girons.
Merci Valérie Darmon. Et maintenant, Wendy Bouchard, on refait l'actu sur Europe 1 avec l'appel d'Emmanuel Macron à bâtir une société de vigilance après l'attentat à la préfecture de police.
Une société de vigilance pour faire face à l'hydre islamiste, cette bête horrible à plusieurs têtes, celle de l'islamisme politique et assassin notamment. Seulement la détection de la radicalisation est-elle un geste citoyen ? On refait l'actu avec vous, Mohamed Sifaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, écrivain, réalisateur et auteur de ce livre Takia, dans lequel vous décrivez la stratégie des frères musulmans pour infiltrer, pour fracturer la société jusqu'à commettre l'horreur. C'est un spécialiste qui écrit, qui analyse. Est-ce que nous, citoyens lambda, nous pouvons faire, dire quelque chose face à ces méthodes de radicalisation comme le souhaite Emmanuel Macron ?
Alors, sur la détection à proprement dit de ce qui est appelé les signaux faibles et qui est un terme technique pour spécialiste, il n'est pas possible pour le commun des mortels, pour le citoyen lambda, comme on l'appelle, d'avoir cette approche. Mais il n'en demeure pas moins que le citoyen doit garder sa vigilance intacte parce qu'il y a des signaux forts, là, pour le coup, qui doivent être à sa portée et qui doivent parfois l'interpeller. Et je dirais, il faut aussi replacer les choses dans son contexte. Quand le président de la République parle de vigilance, la vigilance, elle est totale. Là, en l'espèce, elle n'a pas été dans un service de renseignement. Parce que on parle de signaux faibles, moi je veux bien, mais quand on voit un technicien dans un service de renseignement se convertir, fréquenter une mosquée salafiste, faire de l'apologie du terrorisme en criant, je dirais, ou en disant qu'il était bien fait pour Charlie, ce qui leur est arrivé, qui s'éloigne de tout contact avec ses collègues féminines, etc. Ce sont autant de signes apparents, non pas faibles, qui auraient pu, à tout le moins, dire que cette personne n'avait absolument rien à faire dans un service de renseignement.
Donc le discours d'Emmanuel Macron est pour tout le monde, milieu sensible y compris, entreprise aussi, je pense au transport public, de la SNCF à la RATP, aux aéroports aujourd'hui.
Nous sommes tous concernés parce qu'il faut se rappeler que le terrorisme frappe d'abord l'ensemble de la société.
Bien sûr.
Pas seulement une catégorie de personnes, les forces de l'ordre ou autres. Il faut aussi rappeler que durant plusieurs années, la société a banalisé des faits et des gestes et des paroles qui ne devaient pas être banalisés. L'apologie du terrorisme n'est pas un acte banal. Refuser de prendre le volant après une collègue féminine au sein de la RATP n'est pas un geste banal.
On a été trop léger là-dessus.
On a été, je dirais, d'un laxisme extraordinaire. Parce qu'il y a un débat qui est, je dirais, qui est devenu toxique par le fait de deux groupes. Un groupe identitaire islamiste qui accuse de racisme toute personne qui, justement, alerte sur la possibilité, ou en tout cas l'existence avérée d'un danger islamiste. Et de l'autre côté, une extrême droite et un discours xénophobe qui a, je dirais, anesthésié aussi ou participé à anesthésier le débat.
Le laxisme qui n'est peut-être pas terminé, Mohamed Sifaoui, il y a quelques jours, Adama Traoré, ancien candidat aux élections européennes 2019, qui appelle à cette manifestation de soutien pour Michaël Harpon. Manifestation interdite, évidemment. Il fait l'objet d'un signalement. Rien de plus, selon vos informations ?
Le signalement doit pouvoir alerter les services de renseignement pour pousser une investigation. Un signalement n'emmène pas son bonhomme en prison, si j'ose dire. Un signalement permet d'alerter ceux qui ont à la fois la possibilité juridique d'investiguer et de comprendre le cheminement ou les activités d'une personne donnée. On n'est pas là dans un appel, excitant la société pour qu'elle ouvre une chasse aux sorcières. Non, il s'agit, encore une fois, d'arriver, mais encore faut-il qu'il y ait une pédagogie nécessaire, arriver à faire le distinguo entre ce qui est musulman pratiquant lambda et qui est citoyen par ailleurs, surtout et avant tout, et l'activiste islamiste qui est dans une autre démarche et dans un autre agenda.
Et là, j'en reviens à ma question initiale. Un citoyen peut difficilement peut-être faire la différence dans certains cas et au pire tomber dans l'amalgame. C'est bien
un citoyen peut voir les signaux forts, les signaux faibles et un travail de spécialiste.
Il y a une réalité, Mohamed Sifaoui, confirmée par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Environ 450 détenus radicalisés vont sortir de prison à la fin de l'année, parmi lesquels une cinquantaine de terroristes islamistes. Qu'est-ce qu'on fait de cette info ? On vit, on dort avec ?
Mais c'est une réalité que tous les spécialistes connaissent depuis deux ans. Les peines étaient plus ou moins légère, parce que la plupart de ceux qui ont été condamnés ces dernières années pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ont été condamnés dans une procédure correctionnelle. Et dans une procédure correctionnelle, les peines sont relativement faibles, c'est-à-dire 6-8 ans, c'était, disons, la moyenne. 6-8 ans avec des remises de peine, et ben ceux qui ont été condamnés il y a de cela 8 ans ou il y a de cela 6 ans commencent à évidemment retrouver la liberté. Et ceux qui ont été condamnés à 30 ans ont aujourd'hui juste 36 ans et leur conviction extrémiste intacte. Donc non, on ne fait pas rien avec tout ça. Et tout ça, ça va exiger
un suivi,
évidemment,
incroyable.
Un suivi quotidien, mais ça va être chronophage pour les services de renseignement, parce qu'il ne faut pas oublier que pour, je dirais, suivre une personne, il faut beaucoup de temps et beaucoup de personnel et beaucoup de moyens. Or, aujourd'hui, les moyens, si vous voulez, ne sont pas élastiques. On a une menace intérieure qui est avérée. Et le problème, à mon sens, est le suivant, c'est qu'on fait tout reposer sur la partie sécuritaire et tout le travail en amont. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, si vous voulez, c'est quand je vois le discours de certains gamins qui ont 13, 14, 15 ans, qui sont assez sensibles à des thèses islamistes, conspirationnistes, au discours victimaire, tout ce qui alimente en définitive cette ambiance qui finit parfois par donner lieu à des actes de terrorisme. Et ben, avec cela, on ne fait rien aujourd'hui. Avec toute cette génération qui est sensible à ces aventures héroïsantes qu'offre l'islam politique et notamment le djihadisme, il n'y a absolument rien qui est fait.
Et le fait, c'est qu'on disait exactement la même chose après les attentats de Paris, Mohamed Sifaoui, et vous sur les plateaux aussi, malheureusement.
Oui, mais vous savez, moi j'ai fini par perdre tout optimisme, parce qu'après les attentats du 13 novembre, je me suis dit, voilà, il y a toute la société qui est frappée, il va y avoir une prise de conscience véritable pour dire d'abord que le terrorisme islamiste frappe tout le monde, que même les musulmans sont concernés, et qu'enfin il va y avoir une vraie prise de conscience politique. Or, il y a une prise de conscience sécuritaire, il y a une vraie doctrine antiterroriste, mais il n'y a pas de doctrine anti-islamiste dans ce pays.
Quelques actes peut-être, une réaction Mohamed Sifaoui à cette proposition du CFCN à Christophe Castaner pour faire face au problème des imams islamistes autoproclamés. L'instance finalise un projet qui pourrait donner naissance à un conseil de l'ordre des imams.
Ah, je pense qu'il faut soutenir effectivement cette initiative qui effectivement que je suis en train de suivre de très près, qui a été lancée par les deux vice-présidents du CFCM, Shamseddine Hafiz et Anouar Kibibesh, et qui vise justement à réglementer cette mission d'imamat. C'est-à-dire les imams aujourd'hui sont en roue libre en France. N'importe qui s'autoproclame imam et se met à dire l'islam.
Et là, c'est la source du problème.
Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à laisser des gens qui sont à la fois des ignorants, qui sont souvent porteurs d'idéologies extrémistes, qui sont souvent porteurs de principes anti-républicains, proférer, je dirais, un discours qui n'est pas du tout acceptable.
On suivra cette proposition avec vous et je renvoie à votre livre qui est absolument passionnant, La stratégie de la dissimulation, notamment Taqiya. C'est aux auditions de l'Observatoire, Mohamed Sifaoui. Et vous citez Salman Rushdie en préambule, je le cite aussi parce que ça nous fait comprendre aussi votre posture. Combattre l'extrémisme, je le répète, disait-il, n'est pas combattre l'islam, au contraire, c'est le défendre. On comprend mieux aussi vos prises de position républicaines. Merci Mohamed Sifaoui.
Merci de les avoir compris.
Vous êtes bien sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. Dans un instant, Wendy, on remonte le temps.
Oh oui, 2000 ans en arrière, dans la vie de Cléopâtre, femme de pouvoir, stratège, amoureuse de Jules César à Marc-Antoine. Mon invité, c'est un peu Stéphane Bern, italien, et il en fait une héroïne moderne. C'est passionnant, à tout de suite.
Le grand journal du soir se poursuit avec vous, Wendy Bouchard, sur Europe 1 et avec votre prochain invité. Nous plongeons 2000 ans en arrière dans l'histoire fascinante de Cléopâtre.
Avec un invité qui sait faire vivre l'histoire, il a le sens du récit, de la description avec un ton qui vous emporte. Vous nous venez d'Italie, Alberto Angela, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes pour quelques jours de passage à Paris et ce qu'on va vivre maintenant avec vous va nous faire du bien. On sort un peu de cette noirceur de l'actualité. Je dois dire que je suis heureuse de recevoir une star parce que vous savez porter les couleurs de l'histoire en Italie, mais aussi en France. Vos récits se vendent très bien, ainsi que tout ce que vous faites aussi pour la télévision italienne. Les Italiens et l'histoire, c'est une grande histoire.
Oui, disons, c'est un peu l'histoire de tout le monde. C'est un peu comme quand on monte dans un grenier, on trouve des photos des grands-pères, des grands-parents. On est vraiment épaté par sa propre histoire. Donc, la façon qu'on a de rire, de penser, de manger, dérive directement de ce qui est arrivé dans le passé. Et une reine comme Cléopâtre, qui est une reine très intelligente, une femme moderne, je dirais que c'est ça, c'est sa modernité qui a changé l'histoire.
Avec un sens du pouvoir politique, une stratégie, elle le démontre à plusieurs reprises. Si Cléopâtre n'avait pas existé, vous arrivez à démontrer au travers de ces 500 pages que le cours de l'histoire en aurait été probablement autrement.
Voilà, c'est ça qui est très, très intéressant, de voir comme elle a complètement bouleversé le tout. Pourquoi ? Parce que c'était une reine, mais il y avait beaucoup de reines. Mais dans toute l'histoire, peut-être Élisabeth... Enfin, il y a très peu de reines qui peuvent être mises à son niveau. Et elle a eu une grande chance, qui fait la grande différence. Elle a vécu à Alexandrie dans cette période. Alexandrie, c'était, disons, la fin de l'hellénisme. Hellénisme, ça veut dire Alexandre le Grand. Oui. Mais ça veut dire aussi la puissance de l'intelligence, de la recherche, du cerveau. Donc, c'était une femme, une reine qui avait appris. Elle avait une culture incroyable. Des historiens arabes qui nous parlent et nous disent qu'elle avait écrit des textes de médecine, de toxicologie. Elle était vraiment une femme savante.
Qui pourtant a eu des enfants, qui les éleva aussi, qui suivit sa grossesse avec scrupule, Alberto Angela. Vous nous racontez tout dans le menu détail. C'est ça qui est passionnant. Vous nous apprenez que César et que Cléopâtre se rencontrent et se parlent grec, alors probablement, qu'ils sont ensemble mais mariés chacun de leur côté. Ça, je l'ignorais, par exemple. Il avait quand même dans la même ville, Rome, oui. Sa maîtresse et de l'autre côté du fleuve, sa femme.
Oui, oui, quand on pense à l'Antiquité, on pense toujours à une époque très figée, avec des mœurs très rigides. C'était pas le cas, surtout dans l'époque romaine, l'amour était libre. Il y avait des règles, naturellement. César était marié à Calpurnia, il vivait avec elle au centre de Rome, et c'était le couple officiel, mais il avait sa maîtresse. Et disons, c'était assez répandu comme habitude.
Mais Cléopâtre ne se décrit pas sans César, évidemment, mais Cléopâtre vivra une autre vie après l'assassinat de César, que vous retranscrivez aussi très très bien, Alberto Angela, avec cette grande histoire d'amour avec Marc-Antoine. Et là, vous nous racontez qu'ils ont l'air de deux adolescents, qu'ils ne se quittent jamais, ils jouent au dé, boivent et vont à la chasse, ils aiment s'accorder des sorties nocturnes incognito dans les rues d'Alexandrie, se mêler aux gens, errer déguisés en citoyens lambda, voire en esclaves.
Exactement, ça c'est le grand amour. Alors, Cléopâtre avec César, c'était un amour officiel, mais disons, tous les deux avaient de bonnes raisons pour
elle pour sauver l'Égypte aussi.
Et lui, il avait une reine en Égypte qui était un peu son compte bancaire, parce que le Nil était très fertile, il y avait deux, peut-être trois récoltes par an, donc l'Égypte était une puissance économique, et avoir du blé, beaucoup de blé signifie avoir beaucoup de richesses, beaucoup de richesses, une grande armée, et à Rome, ça veut dire avoir du pouvoir. Ça, c'est l'équation, c'est ça.
Donc, ils avaient trouvé un équilibre entre amour politique et stratégie.
Mais ils s'aimaient. Mais c'était... Bon, lui, il avait un certain âge, il avait plus de 50 ans. Elle avait 20, 25 ans. Quand il est mort, il avait 25 ans. Donc, c'était, bon, un couple construit, disons, par l'histoire. Mais avec Marc-Antoine, non, là, c'est le grand amour, le fou amour. Elle est très habile.
Ils sont au bon moment aussi.
Elle arrive à la conquérir en se présentant officiellement, un peu comme Lady Gaga. C'est ça qui est intéressant. La rencontre, quand il y a... Elle avait une idée très médiatique de la politique. Elle a dit, bon, je vais rencontrer Marc-Antoine. Je sais que tout le monde l'acclame un peu comme le nouveau Dionysos. Donc, c'est une divinité. Moi, je suis Aphrodite, Isis. Et voilà, on va se rencontrer. Ça sera un mariage entre divinité, entre dieux. Elle arrive d'une façon incroyable.
Ah, il va avec la communication.
Absolument. Elle avait tout compris.
Chez HarperCollins, vous pouvez découvrir la vie de Cléopâtre que vous ignoriez aussi dans le détail en vous lançant dans cette aventure d'écriture.
J'avais une idée de Cléopâtre qui correspond un peu au mythe, au cliché que tout le monde a. C'était une femme fatale qui a conquis son pouvoir simplement avec ses
attributs.
Oui, exactement. Son habilité, disons, de sexuelle, presque. Oui. Et puis finalement, ce n'est pas ça. C'était une femme, disons même grecque, parce que le nom Cléopâtre veut dire gloire du père en grec. Mmh. Donc j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une femme égyptienne de l'ancien Égypte, mais c'était quelque chose de différent. C'était une femme grecque.
On est avec vous dans cette antiquité, 2000 ans en arrière. On sort en France d'une exposition record à Paris, à la Villette, pour Toutankhamon. Alors là, on est au temps des pharaons. 1 300 000 Français. C'est devenu l'expo la plus visitée de notre pays. C'est émouvant aussi pour vous, archéologue que vous êtes et passionné d'histoire.
Oui, j'étais vraiment épaté par la statue finale que je ne connaissais pas. Cette statue a un regard qui te suit, exactement comme la Mona Lisa, la Joconde. Mmh. On voit de l'humanité dans la pierre, c'est incroyable. Et puis cette histoire, cette période, cette époque est si lointaine, mais qui a forgé notre façon, l'Antiquité, donc notre façon de penser, même si c'était un Égypte ancien. Et Cléopâtre ne fait pas partie de cette Égypte. Elle a vécu en Égypte, mais c'est, disons, la dernière reine de l'épopée égyptienne, bien que les pharaons soient quelque chose de différent.
Je vous présentais comme une star en préambule. Vous êtes Alberto Angela, il n'y a pas de comparaison, même si c'est vrai que certains disent qu'évidemment vous ressemblez un peu à notre Stéphane Bern national pour cette volonté justement de transmettre, de vulgariser l'histoire. Ça vous va comme
Absolument.
Comparaison?
Absolument, on en a besoin, tout le monde en a besoin. L'information est très rapide, il y a des faits très importants et très graves à comprendre. Il faut avoir un bagage culturel. L'histoire t'aide à comprendre le présent pour t'orienter dans le futur, dans l'avenir. C'est comme un vieux sage qui est auprès de toi et il faudrait l'écouter un peu
plus. Le consulter, l'écouter un peu plus. Quand vous venez à Paris, vous avez un lieu de prédilection, Alberto Angela, pour penser histoire, pour vous recueillir.
Le Louvre,
forcément.
Oui, toujours. Ouais. Et là, c'est un peu comme une bulle du temps. Tu rentres à l'intérieur, tu te perds, il n'y a plus de dimension, il n'y a plus d'horaire. On me chasse à la fin parce que je suis toujours là. Et là, je suis épaté par la créativité, l'imagination et des civilisations du passé. C'est incroyable.
Merci infiniment, Alberto Angela. Et je recommande chaleureusement à nos auditeurs Cléopâtre chez HarperCollins. Voilà qui va vous évader un peu de cette actualité et qui fait du bien, en effet. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
18h50, vous écoutez Europe 1 et dans un instant, Wendy, on va remonter dans les années 80 avec Fabien Lecoeur.
Et ça continue les années 80 avec trois tournées, les stars de la décennie toujours en grande forme, Fabien Lecoeur. Vous êtes prêts? À tout de suite, pas seulement celui-ci, à tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est Wendy Bouchard et tout de suite le rendez-vous du week-end, la chronique musicale de Fabien Lecoeur.
Notre spécialiste de la chanson française avec ses titres qui font notre histoire, l'histoire aussi d'une décennie en rouge et noir.
Rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur.
On commence avec cette chanson culte pour une génération, Fabien.
Culte, évidemment, qui est restée 13 semaines en tête du top 50 et que Jeanne Masse avait composé au bord du Tibre à Rome, tout simplement. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler que la mode de la tournée multi-artiste était venue des USA. En fait, ça venait des USA parce que, et d'Angleterre et d'Italie. Après le passage de l'an 2000, d'un seul coup, on a eu une espèce de mémoire.
Bouffée de nostalgie.
Oui, et on a voulu se souvenir finalement de nos jeunes années. Alors, il y a eu d'abord la tournée H Tendre et Tête de Bois, évidemment, une tournée imaginée par le producteur lyonnais Michel Alguet, et qui réunissait toutes les stars des années 60-70. Ça avait démarré.
Charles Anthony, Jean-Jacques Debout, Michel Thor.
Annie Philippe, Nancy Holloway, Sheila et tant d'autres.
Chacun avait un tour de chant, en fait. Hein.
Exactement. Mmh. À part ça, c'était à partir de mars 2006. Et puis, un an plus tard, l'année suivante, donc le 15 mars 2007, deux autres producteurs, Olivier Kaeffer et Hugues Gentlet ont eu l'idée de créer d'abord une tournée baptisée RFM Partie 80. Et à partir de là, une pléiade d'artistes sont venus justement de cette décennie. Et on arrivait pile poil dans la mémoire. Parce que Marcel Proust, il est considéré en France comme le père de la nostalgie.
Oui.
C'est lui qui a décrété...
J'adore qu'on fasse le lien entre la tournée RFM 80 et Marcel Proust.
Mais c'est important, parce que le livre du côté de chez Swann, lorsque le héros du livre croque dans cette fameuse Madeleine de Proust, il se souvient de sa tante Léonie qui lui faisait les Madeleines. Il s'est passé 3 fois 7 ans, c'est-à-dire 21 années. Et c'est 21 années qui déclenchent dans le cerveau de l'être humain, que nous sommes tous, finalement, cet effet de mémoire et de souvenir.
Par exemple, quand vous écoutez ça. Et le groupe Image qui chante Les démons.
Les démons de minuit. Alors, cette chanson, personne n'en voulait au départ. Hein. Ça s'appelait Love Tonight.
Oui.
Toutes les maisons disques l'avaient refusé. Et Richard Seff, le producteur et célèbre parolier Richard Seff à Toulouse, lui, il a dit on va la faire en français finalement. Et là, tout le monde a signé. Et à partir de là, ils sont restés quand même 13 semaines en tête du top 50.
Et alors, tous ces artistes acceptent de partager le plateau, c'est ça qui est bien, pour deux, trois chansons, parfois juste un titre. Hein.
Exactement, et puis c'est une manière pour eux de chanter devant 5, 10 000 personnes.
Ouais.
Ils ont même fait le Stade de France, le 17 mai 2008, on peut rappeler quand même un peu d'histoire. Ils feront Bercy le 22 mars aussi de l'année 2012, et puis le 24 octobre 2012, évidemment, sortie du film Star 80.
Et oui, avec Patrick Timsit et Richard Anconina dans le rôle des producteurs, voilà un film qui a suscité aussi l'engouement. Petit extrait.
C'est un flashback dans les années 80, avec une troupe d'artistes confirmés, et leur tube, inusable, qui tourne partout en France.
Peter Leslow,
vous imaginez le nombre de couples qui s'est formé sur votre musique?
Oh, t'es vraiment qu'une hystérique!
Tu peux pas fermer ta gueule?
Bien. Alors on a François Tellman,
Émile et Images.
Il montrait au bout de la nuit.
Les Irlandaises quand même qui a été...
Ça c'est bien.
Coiffeuse.
Sabrina. Ah bon, et puis voilà. Tout le reste quoi, hein, tout le 80.
J'ai pas vu ce film, mais j'ai vraiment très très envie d'aller le voir, parce que ça ressuscite vraiment, là encore une fois, des souvenirs.
Wendy, il faut rappeler, c'est 1 900 000 spectateurs en salle, quand même. C'est un triomphe absolu.
Deux films, hein, Star
80. En moins de 7 semaines, ce qui est quand même remarquable. Ouais. Alors après, bien sûr, la tournée Star 80 repart. Maintenant, elle s'appelle Star 80 Triomphe.
Et il y a trois tournées en même temps.
Alors, il y a une autre tournée qui s'appelle Les années 80 en tournée. Et puis, il y a Best of 80 avec Samantha Fox qui a démarré. Là, toutes elles ont redémarré en octobre.
C'est impressionnant.
Ce qui est quand même hallucinant. Et c'est plein partout.
C'est ça.
C'est-à-dire que je suis allé voir la Best of 80 à Rouen, là, justement, hier soir. Mais c'est hallucinant, les Zéniths sont bourrés, Samantha Fox, il y a Michael Jones, il y a Julie Pietri, il y a aussi bien Vivien Savage, il y a...
Et Jean-Luc Lahaye, entre vous ?
Alors Jean-Luc Lahaye, il est sur une autre tournée, je crois que c'est Star 80, lui.
On revit avec lui, vous et lui, le voilà. Titre de 1982.
Femme, simplement je te dis...
Vous parliez de Julie Pietri, c'est ce titre culte. Ça marche, il n'y a rien à dire, ça marche.
Non mais c'est des tubes incroyables et c'est des chansons qui sont souvent nées de manière très accidentelle. Je reviens sur Femme que j'aime de Jean-Luc Lahaye, elle s'est créée au Feu Rouge, vous y passez pour les Parisiens, tous pratiquement, c'est le Feu Rouge qui est en face du Palais Royal, rue de Rivoli à Paris.
Oui.
Et Jean-Luc Lahaye était à moto, sur sa moto, et puis il y a une voiture, une Austin qui vient se garer juste à son niveau, les fenêtres étaient ouvertes, ils sympathisent. Et puis la fille qui conduisait la voiture s'appelait Lana Sébastien. Lana Sébastien, c'est elle qui avait fait Gigi Lamoroso pour Dalida.
Quand même.
Je viens dîner ce soir pour Claude François, les gondoles à Venise pour Chalet Ringo.
Ouais.
Et elle lui dit, elle trouve que le garçon est très beau à moto.
Mm-hmm.
Et elle lui dit, mais vous faites quoi? Vous faites quoi dans la vie? Il dit, je suis chanteur. Mais chanteur qui ne marchait pas, évidemment. Et donc, elle lui donne un rendez-vous, elle lui fait enregistrer la chanson qui a été refusée déjà par un autre.
Ouais.
Et voilà comment il vendra plus d'un million d'exemplaires et sa carrière sera lancée.
Il y a quand même quelque chose de très singulier avec ces artistes des années 80, Fabien Lecoeuf, c'est que parfois ils sont portés par un ou deux titres, mais qui ont une durée de vie incroyable, qui ont explosé les compteurs.
Ah bah,
c'est un million d'exemplaires vendus au bas mot pour tous ces titres qu'on entend là.
On est d'accord.
Ouais.
Minimum.
Mais
puis
parfois un seul.
Des accidents. Bah, Born to Be Alive est le symbole même de la décennie 80, puisque c'est le tube de l'année 79, mais qui ouvre la décennie 80.
Bien sûr.
Et là, ça représente 23 millions de disques vendus quand même dans le monde entier.
Mais alors attention. Les années 80, c'est aussi ça, mesdames et messieurs.
Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Et je te donne ce que j'ai, ce que je.
Petit niveau au-dessus.
Oui, hein, mais là, alors, et puis ça, c'est une belle histoire d'amitié. J'étais avec Michael Jones encore hier. Et alors, Michael me racontait sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman. Parce que ça, c'est une belle histoire. Jean-Jacques Goldman faisait partie d'un groupe qui s'appelle Typhoong. Et puis, il devait quitter le groupe Jean-Jacques parce qu'il ne pouvait pas faire la tournée de ce groupe l'année suivante. Et il passe une petite annonce dans un journal musical. Répond à cette petite annonce Michael Jones. En 1979, ils ne se sont plus jamais quittés. Et bien évidemment, ils feront naître cette chanson en réponse à la montée du Front National.
Absolument.
En 1984, aux élections européennes.
Mmh.
Et c'était une manière de dire finalement que tout le monde peut être, tout le monde
toutes
peut vivre. Mais évidemment,
oui.
c'est une chanson qui est restée.
C'est un hymne.
C'est un hymne, 8 semaines numéro 1 du top 50.
Et Michael Jones fait les tournées 80.
Michael Jones, alors il nous fait du Goldman toute la tournée, donc triomphe absolu dans les salles.
Mais pourquoi pas réunir les trois tournées en même temps?
Bah parce qu'il n'y a pas trop de stade pour accueillir autant de spectateurs.
C'est-à-dire qu'il y aurait quand même 8 heures de spectacle. Là, c'est un peu
c'est ça, c'est pour ça. Voilà, je m'en doute.
La tournée des années 80, allez sur Internet si vous voulez voir dans votre ville où elle se produit. En tout cas, c'est un phénomène que vous avez bien mis en lumière
c'est
ce soir, Fabien Lecoeuf.
Ouais.
Demain, on parlera de votre livre qui est sorti sur Renault. On va se régaler.
Avec des belles petites histoires de coulisses demain.
J'imagine, à tout de suite.
18h, 20h, Wendy Bouchard.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Bienvenue dans votre grand journal si vous nous rejoignez au cœur de l'actualité. Voici les infos avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 19h.
Le spectre de Xavier Ligonnès qui revient comme ça, brusquement, dans notre réalité, ça fait beaucoup de mal, ça réveille des peines profondes.
Le mystère Xavier Dupont de Ligonnès reste entier. L'homme interpellé hier à l'aéroport de Glasgow n'est pas l'assassin présumé recherché depuis 8 ans.
Donc toujours beaucoup d'interrogations pour les Nantais. Ce nouvel échec marque un retour à la case départ. Nous entendrons leur réaction dans ce journal.
Quatrième jour d'offensive turque en Syrie et l'inquiétude de la communauté kurde de France rassemblée aujourd'hui à Paris et qui appelle à la mobilisation.
J'ai envie de dire aux gens de venir nous aider, de dire à Erdogan de stopper ses attaques contre nous.
Deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, un nouveau rassemblement à Rouen pour réclamer la vérité sur les conséquences sanitaires du sinistre.
Dans les jours ou dans les semaines qui viennent, on va déposer des plaintes. Très clairement, on est sur un combat sur le long cours. Ça sera des années.
C'est l'essentiel de ce journal jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1.
Et nous vous l'annoncions dès midi et demi sur l'antenne. L'homme interpellé hier à l'aéroport de Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour l'assassinat de sa femme et de ses quatre enfants.
Chloé Triomphe, en moins de 24 heures, on est passé de l'espoir d'un point final à cette affaire qui dure maintenant depuis 8 ans à une déception.
Oui, en moins de 24 heures, l'ADN a totalement levé le doute. C'était le test génétique qu'attendait le procureur de Nantes. Il avait d'ailleurs, dès hier soir, appelé à la prudence. Et ce, malgré les premières informations policières venues d'Écosse et relayées en France sur les empreintes digitales de l'homme interpellé à Glasgow et qui, dans la soirée d'hier, avait été annoncé comme concordante avec celle de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais dans la nuit, au fil des heures, plusieurs éléments avaient fait germer le doute. D'abord, le peu de ressemblance physique entre le suspect et le père de famille fugitif, puis la perquisition menée cette nuit dans les Yvelines au domicile correspondant à l'identité figurant sur le passeport de cet homme. Les empreintes relevées sur place dans la maison ne concordaient pas. Et puis enfin, les témoignages des voisins de cet homme, Guy J, retraité de Renault, qui spontanément avait déclaré aux enquêteurs qu'il connaissait leur voisin depuis 30 ans et qu'il ne pouvait s'agir que d'une méprise. Hypothèse donc refermée ce soir avec la énième fausse piste dans cette traque qui dure depuis 8 ans.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. On apprend ce soir que l'homme interpellé hier à Glasgow après avoir été dénoncé de façon anonyme a été relâché aujourd'hui par la police écossaise.
Cela fait maintenant 8 ans que Xavier Dupont de Ligonnès s'est donc volatilisé après le drame, après qu'il a tué sa femme, ses 4 enfants, avant de les enterrer dans leur jardin à Nantes. Bruno de Stamenrath est son ami d'enfance et cette nouvelle fausse piste réveille chez lui la douleur.
La déception, parce que ça réveillait des choses terribles. Quand on évoque l'affaire, il est préférable d'être prudent et de pas le conditionnel, parce qu'il faut comprendre que les souvenirs des crimes et le spectre de Xavier Ligonnès qui revient comme ça brusquement dans notre réalité, ça fait beaucoup de mal, ça réveille des peines profondes. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours 5 victimes, Agnès et les 4 enfants qui réclament justice. Et donc, je pense que c'est pour eux que l'exercice de la vérité doit continuer. Et puis, surtout, inciter la police à jamais classer le dossier, quoi. Si, parfois, cette histoire elle éclate au grand jour, Xavier parlera et on aura besoin de ses aveux.
Mais vous pensez toujours qu'on finira par le retrouver vraiment un jour ?
Je le pense, oui, je le pense.
Bruno Stabenrath répondait à Théo Manval pour Europe 1. Une nouvelle fausse piste donc et nouvelle déception pour les Nantais qui ne connaissent toujours pas l'épilogue de cette affaire et qui ont la sensation d'un retour à la case départ. C'est ce qu'ils vous ont confié, François Coulon.
Oui, même si les pistes du suicide semblent majoritaires chez les Nantais, la révélation hier soir de l'arrestation de Ligonnès, 8 ans après le drame, a fait naître de nombreux espoirs. Rude est la chute pour Bruno, qui fréquentait la famille disparue.
On tombe de très haut, c'est machine arrière, et on repart à zéro. Moi, je me souviens quand on le croisait dans le quartier, on avait nos enfants dans la même école, sa femme, très sympa. Moi, je discutais de temps en temps avec lui. Ça me fait quelque chose, je me dis, où es-tu, Xavier ? Est-ce qu'il est vivant ? On est tous émus dans la famille, on est attentifs à ce que ça va donner.
Même déception sur la place Saint-Félix, paroisse des Ligonnès, Cécile.
Au point où on en est, tout est possible. C'est décevant, mais surtout pour l'entourage et les proches. Ça veut dire que la réalité, ils ne la connaissent pas. Est-ce qu'ils la connaîtront un jour ? Et ça doit être extrêmement douloureux pour eux. C'est vraiment à ça que je pense. Il y a eu plein de pistes explorées. Là, ça a donné un peu d'espoir, parce qu'on voulait savoir ce qui s'est passé réellement. Et là, pour le coup, c'est encore un espoir déçu. Et encore une douleur, j'imagine, pour l'entourage supplémentaire.
Thérèse, 92 ans, espérait depuis hier soir un procès. Quand on a commis des crimes monstrueux, il faut payer. C'est pour l'instant un vœu pieux.
François Collant, le correspondant d'Europe 1 à Nantes.
Dans l'actualité de ce 12 octobre également, quatrième jour d'offensive turque en Syrie, les Kurdes de France se sont rassemblés aujourd'hui à Paris et nous serons sur place dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, le grand journal du soir. Europe 1.
Il est 19h06, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Et cela fait 4 jours maintenant que la Turquie mène une offensive contre les Kurdes de Syrie. Bombardements et assauts terrestres, malgré le tollé international et les menaces de sanctions américaines.
L'ONU craint une grave crise humanitaire et a annoncé que déjà plus de 100 000 personnes avaient dû fuir. Alors pour dénoncer cette offensive et demander la mobilisation de la communauté internationale, un important rassemblement s'est tenu place de la République à Paris cet après-midi. Et Yasmine Akatou, vous avez suivi ce rassemblement pour Europe 1 et c'est l'amertume qui domine chez les manifestants.
Effectivement, le peuple kurde dénonce un abandon de la part des États-Unis et de la France. On peut lire sur des pancartes « C'est comme ça qu'on nous remercie ». Dylan portait une affiche « Debout pour Rojava », région kurde de Syrie bombardée par les Turcs. La jeune femme a comme un sentiment de trahison.
Bah, les États, en fait, ils agissent tout simplement en fonction de leurs intérêts. Pour leurs propres intérêts. Les Kurdes sont des héros, il n'y a pas mieux qu'eux, on va leur donner des armes, on va les aider. Mais par contre, quand ça ne va plus dans leur sens et qu'ils n'ont plus trop d'intérêt avec nous, c'est des terroristes pour eux. Et ça, nous, on n'acceptera jamais.
Depuis le début de l'offensive turque, il y a eu plusieurs morts côté kurde. Ishta, 19 ans, a quitté Rojava il y a maintenant 6 ans. Elle souhaite que le massacre s'arrête. Elle a peur pour sa famille coincée sous les bombardements.
Depuis une semaine, je parle avec ma famille. Ils me disent leur adieu. Ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont survivre cette attaque. Donc ils ont peur. C'est vraiment horrible de parler avec eux. Alors qu'on sait à n'importe quel moment que ça va être la dernière fois qu'on va leur parler. Je veux dire aux gens de venir nous aider, d'arrêter cette attaque d'Erdogan, de dire à Erdogan de stopper ses attaques contre nous.
Ishta espère que sa famille s'en sortira. Elle n'a plus eu de nouvelles depuis hier.
Merci Yasmine Akatou, Palace de la République à Paris et autres rassemblements en soutien aux Kurdes à Marseille aujourd'hui où entre 1500 à 6000 personnes sont descendues dans la rue. Au Japon, le puissant typhon Hagibis se dirige à présent vers Tokyo. Il a touché les côtes du pays en fin de matinée. Des pluies diluviennes et des vents violents s'abattent sur le pays. Au moins 2 personnes ont été tuées. 3,2 millions d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer.
Retour en France avec Rouen. La colère de semaines après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, les habitants qui ne décolèrent pas, ils sont à nouveau descendus dans la rue pour réclamer la vérité sur les conséquences sanitaires de l'incendie.
Oui, ils étaient un peu plus d'un millier, selon la police cet après-midi, tous déterminés à mener le combat, un long combat. Écoutez, Olivier Blond, il est le président de l'association Rouen Respire.
L'idée, c'est de constituer un dossier suffisamment solide pour qu'il ait une chance d'aboutir et de ne pas emmener les gens sur des combats longs, fatigant, coûteux et perdu d'avance. Respire a obtenu une première victoire en obtenant la nomination d'un expert indépendant. On va s'appuyer sur les résultats de cet expert et dans les jours ou dans les semaines qui viennent, on va déposer des plaintes, mais on essaie de prendre le temps pour avoir les dossiers les plus solides pour défendre les intérêts des gens, pour qu'ils soient indemnisés, pour qu'ils aient la vérité. Très clairement, on est sur un combat sur le long cours. Ça sera des années. C'est comme une marée noire. C'est 10 ans d'action, donc il faut avoir les reins solides, il faut s'organiser, il faut être le plus nombreux possible pour pouvoir tenir sur le long cours.
Olivier Blond, le président de l'association Rouen Respire, au micro européen d'Hélène Terzian.
C'était le journal de Sophie Tussaud. À tout à l'heure, 19h30, Sophie.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcadB vous présente la météo.
Et c'est un ciel bien contrasté qui nous attend demain dimanche, Valérie Darmon.
Absolument. Et si vous habitez la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, les pluies sont soutenues toute la journée. En cours d'après-midi, vous retrouverez quelques vagues éclaircies sur le Finistère. Pluie et vent aussi à prévoir sur les Hauts-de-France, où le ressenti est automnal, ciel menaçant de la Champagne aux Ardennes et chaleur de la Lorraine à l'Alsace avec du plein soleil. En région parisienne, vous passerez la journée sous un ciel hésitant et à partir du milieu d'après-midi, les premières averses se déclencheront et se poursuivront jusqu'au soir. Grand beau partout ailleurs, c'est-à-dire sur le sud-ouest, sur le sud et sur l'est, mais en fin de journée, vous retrouverez les averses orageuses des Charentes au Limousin à cause de la perturbation qui arrivera par l'ouest.
Merci Valérie Darmon. Place au sport maintenant, Wendy.
Le retour de Christophe Lamarre pour vous informer avec du foot à la une et les Bleus qui sont rentrés à Clairefontaine. Après l'Islande, les voilà donc concentrés sur la Turquie.
Ce sera lundi soir au Stade de France, un léger parfum de revanche sur les Turcs, bien sûr, mais aussi sur eux-mêmes. Les Français s'étaient inclinés 2-0 au match aller et ce souvenir est encore bien présent dans les têtes. Il ne faut toutefois pas se tromper d'objectif. On ne gagne pas pour se venger de quoi que ce soit, on doit gagner pour se qualifier, répète Steve Mandanda. Le gardien marseillais ne s'attend pour autant pas à une partie de plaisir.
C'est l'objectif. Après, c'est sûr qu'on aura un adversaire qui aura aussi envie de gagner. Ça va être un match compliqué dans un stade, je pense, qui sera assez partagé entre les Français et les Turcs. Mais on joue à domicile. On a eu un match aller là-bas qui a été difficile pour nous. Donc on se doit aussi de montrer un autre visage et de répondre présent.
Steve Mandanda au micro de Cyril de la Morinerie. La France est deuxième de son groupe derrière la Turquie qu'elle affrontera donc lundi soir au Stade de France. Si les Bleus s'imposent, vous l'aurez compris, ils seront qualifiés pour l'Euro 2020.
Un record pour l'histoire maintenant, moins de 2 heures pour courir un marathon, c'est une première.
Oui, il s'appelle Eliud Kipchoge, champion olympique de la discipline. Il a couvert la distance de 42 km 195 en 1h59 minutes et 40 secondes. Mmh. Un record qui ne sera pas homologué.
Pourquoi ?
Voilà. Pourquoi ? Je savais que vous alliez me poser la question. Parce que les conditions de course et de piste ne sont pas celles d'un marathon classique. Kipchoge a notamment bénéficié de repères, de coureurs qui l'ont aidé à tenir son rythme. On appelle ça des lièvres. Mmh. Explication de notre consultant athlétisme, Jean-Claude Perrin.
Il y a essentiellement un facteur, c'est le problème des lièvres et surtout de la répartition des lièvres, puisque ils se sont alternés par fraction de kilomètres ou de 5 kilomètres, de façon à faire un véritable relais, un mur autour de lui, qui lui a donné la cadence. En plus, il y avait devant eux une voiture avec un dispositif de laser qui donnait au millième de seconde près la distance et le temps qu'il leur restait à faire pour être dans les points du record. Donc, chose qu'on ne trouve pas pendant les compétitions officielles. Mais une chose est vraie, c'est qu'un homme, deux bras, deux jambes, une tête très solide, a fait moins de 2 heures.
Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, moins de 2 heures.
C'est comme courir le 100 mètres en 17 secondes.
Nous sommes bien d'accord, mais bon, 17 secondes, 100 mètres, 220 fois. Hein.
Oui,
et pas
voilà.
17 secondes, je m'arrête et puis après, je bois un coup et je repars. Non. Non, mais ça situe quand même la performance exceptionnelle.
Exceptionnelle, on est d'accord. Le reste de l'actualité sportive, Christophe.
Le cyclisme Bauke Mollema remporte le Tour de Lombardie. Le Néerlandais s'impose en solitaire avec une quinzaine de secondes d'avance devant Alejandro Valverde et Egan Bernal.
En gymnastique, la performance exceptionnelle, là encore, d'une femme appelée elle aussi à laisser son nom dans l'histoire.
L'américaine Simone Biles s'offre un 17e sacre aux Mondiaux de Stuttgart avec 23 médailles au total. Elle égale le record détenu jusqu'à présent par le Bélarus Vitaly Scherbo. Puis la Coupe du Monde de rugby au Japon, l'Irlande rejoint les quarts de finale après son succès 47-5 sur les Samoa. Et puis en top 14, parce qu'on joue le championnat de France, bien sûr, Bayonne a battu Montpellier 28-24. Le tennis, la finale du Masters 1000 de Shanghai opposera Alexander Zverev à Daniil Medvedev. Et puis le Grand Prix de Formule 1 de Suzuka, suspendu bien sûr au typhon Agibis. Pour l'instant, la course est maintenue à demain matin 7h10. Heure française. Les qualifications, si elles ont lieu, se dérouleront cette nuit à 3h du matin.
Merci Monsieur Christophe Lamarre. On vous rappelle Europe 1 Sport dès 20h avec Lionel Rousseau. Merci Christophe.
19h15 à suivre, Wendy Bouchard.
Dans un instant, alors que les Républicains élisent leur chef de parti ce week-end, ça commence ce soir dès 20h, on va faire le point sur les forces en présence côté LR à 6 mois des municipales. Le politologue Pascal Perrineau nous a rejoint en studio. A tout de suite.
18h-20h, Wendy Bouchard.
Vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 et dans l'actualité de ce samedi 12 octobre, une élection chez les Républicains.
5 mois après la lourde défaite du parti LR aux européennes, 8% des voix, je vous le rappelle, les adhérents sont donc appelés à voter par internet ou dans les permanences de leur parti dès 20h ce soir jusqu'à demain 20h pour élire un nouveau chef après l'échec de Laurent Wauquiez. Bonsoir Pascal Perrineau.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et professeur des universités à Sciences Po. Ils sont 131 000 électeurs à pouvoir départager dès ce soir Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert. C'est une élection qui se joue 15 jours après la mort de Jacques Chirac. On est très loin du chef qui chefait à l'époque.
Ah, tout à fait. Là d'ailleurs, une nouvelle règle implicite s'est imposée puisque la direction transitoire de M. Leonetti a imposé l'idée que celui qui sera président ne sera pas présidentiable. Mmh. Donc aucun des candidats n'est un futur présidentiable, ce qui devrait un peu dépassionner la transmission du pouvoir aux Républicains, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes les dernières transmissions du pouvoir ont été chaotique. Souvenons-nous de l'affrontement entre Fillon et Copé. Là, c'était absolument dantesque. Et puis ensuite, il y a eu le retour de Nicolas Sarkozy, mais ça s'est mal terminé, puisque le chef de parti a été battu et à plate couture dans l'élection primaire. Puis ensuite, Monsieur Wauquiez. Et Wauquiez a amené le parti. Il a été obligé, avant l'été, de quitter la direction du parti, parce qu'il a amené le parti à un palier historique. On n'avait jamais vu cela. La droite classique se retrouve à 8,5% des suffrages exprimés.
Oui.
Donc le parti va mal, l'électorat va mal.
Ça veut dire que ce ne sera pas un chef d'un parti qui sera une machine à gagner pour lui. Quel rôle pourra-t-il avoir dans ces conditions ?
Alors, si la droite veut rebondir, elle a beaucoup de défis devant elle. Il faut que d'abord qu'elle se remette en ordre de bataille dans la petite machine qu'est devenue les Républicains aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, en 2017, il y avait eu le problème Fillon avait été battu, mais Fillon, c'était tout de même 20% des suffrages exprimés, et non pas 8,5%. Et puis, le parti, c'était 230 000 adhérents. Là, on se retrouve à 130 000. Ouais. Et je regarderai très attentivement demain soir pour voir le nombre de votants. Oui. On se retrouvera certainement, peut-être aux alentours, pourquoi pas, de 50 000 ou de 40 000. C'est une petite machine qu'il faut remettre en ordre de bataille, mais ça n'est que le début d'une éventuelle et difficile reconquête électorale, parce qu'il faudra trouver un présidentiable. Et pour l'instant, les présidentiables les plus crédibles à droite sont en dehors du parti.
Oui.
Valérie Pécresse en est sortie, Xavier Bertrand en est sorti. Il ne reste que François Baroin à l'intérieur, si jamais ça pouvait le tenter. Donc, il reste à trouver un présidentiable, il reste à trouver un programme, et il reste à trouver un autre type d'organisation. Parce qu'au fond, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Et c'était intéressant, tout de même dans le débat qui a été assez peu couvert par les médias, et c'était normal, il y avait d'autres sujets dans l'actualité. En particulier, la jeune garde représentée par Guillaume Larrivé et Julien Aubert disent, il faut peut-être élargir, pas simplement aux adhérents, mais aux sympathisants. Faire vivre une association qui ne soit pas rabattue simplement sur les seuls militants.
Et la question est de savoir aussi, Pascal Perrineau, quel espace politique peut occuper la droite, alors qu'il y a cette théorie d'Emmanuel Macron qui veut broyer la droite pour qu'elle ne puisse pas remonter, notamment sur le débat sur l'immigration, pour être concret. On l'a bien senti. Plus de laxisme du côté d'Emmanuel Macron, qui intensifie un peu sa ligne, le RN qui radicalise et la droite qui est obligée d'embrayer aussi.
Bien sûr, on voit bien que sur les thématiques régaliennes, c'était sensible avec le maintien de l'ordre vis-à-vis des Gilets jaunes. Maintenant, c'est sensible sur le terrain de l'immigration. Emmanuel Macron ne laisse aucun espace à la droite et pour l'instant, ça réussit. Il suffit de regarder les européennes de mai dernier. Aux européennes de mai dernier, une partie non négligeable de l'électorat républicain qui avait voté Fillon en 2017 a choisi de voter pour la liste de La République En Marche aux européennes. Donc, il y a une droite qui est prise en tenaille entre la tentation et puis le passage à l'acte du transfert vers La République En Marche et de l'autre côté, la tentation du Rassemblement National. Donc, l'espace reste un espace relativement ténu. Et dans cet espace, il va falloir retrouver un homme ou une femme capable de convaincre, un programme capable de mobiliser et une organisation capable d'encadrer la dynamique éventuelle. Pour l'instant, on est au début de tous ces chantiers.
C'est un parti qui peut disparaître si les votants sont très faibles dans l'intervalle entre ce soir et demain, Pascal Perrineau.
Je regardais, par exemple, puisque la dernière mesure, c'est les européennes, 8,5, c'est peu. C'est un peu mieux que les socialistes, les républicains peuvent se contenter de cela, mais enfin. Mais dans certains milieux, ça y est, les républicains ont quasi disparu. Vous prenez les 35-49 ans, vous prenez les ouvriers, vous prenez les employés, vous prenez les professions intermédiaires. Les LR, aujourd'hui, c'est 2 à 3% de l'électorat.
On ne sait plus définir le parti.
C'est-à-dire, ça n'est plus rien.
Ouais. On verra qui de Christian Jacob, de Guillaume Larrivé ou de Julien Aubert sera le prochain chef de ce parti. Il y a quand même une lueur d'espoir pour eux et pour les adhérents et pour les électeurs qui nous écoutent et qui sont quand même encore aspirés par la dynamique des Républicains. Ce sont les élections municipales. Dans 6 mois, avec les enquêtes le démontrent, une satisfaction des maires en place et une prime au sortant.
Tout à fait.
Pascal Perrineau.
Et là, les dernières municipales ont été extrêmement favorables à la droite et aux Républicains. Donc les Républicains ont, si possible, j'espère pour les maires républicains, ont fait leur preuve.
Oui.
Mais quand on regarde les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que les maires sortants, au fond, sont assez bien placés. hein, sont assez bien placés. Mais quand on a gagné beaucoup aux dernières municipales, ça veut dire qu'éventuellement, on a pas mal à perdre.
Bien sûr. Un petit mot du président du Sénat, Gérard Larcher, qui veut proposer aux candidats investis par LR un label « La France des territoires », plus vendeur que le logo du parti qui, manifestement, n'excite plus guère, et qui leur permettrait de se présenter, ces maires-là, comme divers droite.
Tout à fait, mais l'idée du président du Sénat est une idée pleine de bon sens, parce qu'on voit bien que là où le bât blesse chez Emmanuel Macron et dans ceux qu'il soutiennent et La République En Marche, c'est la question des territoires. Mm-hmm. Depuis 2017, au fond, l'ancrage territorial, le rôle des élus locaux, le rôle des départements, des régions, des communes, des intercommunalités, au fond, le président et La République En Marche, là-dessus, n'ont pas convaincu. Donc il reste, pour la droite républicaine, que représente au fond très très bien Gérard Larcher, il reste là un combat à mener. Et cette idée de se ressourcer dans les territoires, pour un parti qui a encore beaucoup d'élus locaux, beaucoup de maires, de présidents de conseils départementaux, de présidents de conseils régionaux, est certainement une idée qui peut avoir un avenir. Parce qu'il ne faut pas poser le problème du renouveau de la droite uniquement au travers des hommes, mais au travers du logiciel, autour de quelles idées ils vont mobiliser.
Oui, et c'est les idées que vous avez d'ailleurs bien agitées avec tous les citoyens pendant ce grand débat qui retomberont, j'espère, un peu dans l'espace public. Merci beaucoup Pascal Perrineau pour votre lecture toujours claire et passionnante. Politologue et professeur des universités à Sciences Po. Et à bientôt sur Europe 1.
Le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Wendy Bouchard.
Voici l'écho de la planète chaque samedi, le journal de l'environnement avec Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, interdiction en vue des nitrites dans le jambon ou les rillettes de supermarché. Greta Thunberg, qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi est-ce qu'on l'attaque aussi violemment? Et puis à partir de lundi, les restaurants universitaires passent au repas végétarien.
Et si on interdisait donc les nitrites dans les charcuteries industrielles, pas mal.
Oui, c'est le combat de Richard Ramos, député Modem, qui vient de déposer un amendement pour forcer les fabricants de jambon, de saucisses, de rillettes industrielles à arrêter d'utiliser ces additifs qu'on retrouve sous le sigle E250, sous peine d'une taxe de quelques dizaines de centimes par kilo pour les industriels.
Parce que les nitrites, c'est très mauvais pour la santé.
Oui, voilà, c'est une substance qui est classée cancérogène, certain par l'OMS. Alors pourquoi les industriels l'utilisent? Explication de Guillaume Coudray, documentariste spécialiste du sujet.
La principale raison, qui est une raison cachée, c'est que c'est pour la coloration. C'est-à-dire que si vous cuisez une tranche de porc chez vous, elle va devenir grise. C'est pas très appétissant. Sous un blister, sur un rayonnage, pour rester grise pendant des semaines, c'est pas très appétissant. Si vous mettez du nitrite de sodium, elle va devenir rose. Et elle va rester comme ça, stable, très appétissante, pendant des semaines. Et c'est pour ça qu'ils mettent du nitrite.
Et selon le député Richard Ramos, les nitrites servent aussi à retenir l'eau et donc à vendre aux consommateurs de l'eau au prix de la
viande. Voilà, oui, c'est malin. Cet amendement doit être soumis bientôt au vote.
Oui, dans les prochaines semaines.
Très bien, on suivra ça avec vous. Greta Thunberg fait l'objet de critiques, Virginie, et d'attaques de plus en plus violentes.
Oui, c'est un oiseau de mauvais augure. Elle a un discours de fin du monde, anxiogène ou encore un côté démoralisateur pour les jeunes. Ça, c'est la critique, par exemple, de Bernard Arnault, il y a quelques jours, devant les salariés de son groupe, LVMH. Le président de l'Association des Amis du Palais de Tokyo, un musée parisien, a même été limogé, lui, après avoir écrit dans un post Facebook, je cite, « J'espère qu'un désaccès va l'abattre ». Il s'est ensuite excusé, mais c'était trop tard. Pourtant, Greta Thunberg ne fait que reprendre précisément les arguments des scientifiques. La vice-présidente du GIEC nous a accordé une interview. Voilà comment Valérie Masson-Delmotte explique la haine anti-Greta.
Je pense qu'elle dérange énormément parce qu'elle est le contraire de ce que certains attendent d'une jeune fille. Sois belle et tais-toi. Elle ne cherche pas à plaire, elle essaie d'être elle-même. Je pense qu'elle est très courageuse. Et puis surtout, elle réfléchit profondément et elle demande aux gens d'écouter le constat scientifique. Et malgré son jeune âge, je suis convaincue qu'elle a lu beaucoup de travaux scientifiques et qu'elle les a compris.
Valérie Masson-Delmotte, vice-présidente du GIEC. Justement, l'une des recommandations, Virginie, de ces scientifiques, c'est de manger moins de viande pour préserver la planète.
Oui, et les restaurants universitaires s'y mettent eux aussi. À partir de ce lundi, il y aura un repas végétarien proposé dans chacun des 788 restos U de France. Mmh. Ça s'appelle lundi vert. Alors, ce ne sont pas des steaks de soja trop cuits, hein, je vous rassure. Oui, il y a 150 recettes différentes avec des produits frais, des aromates pour 3,30€ le repas. Et en parallèle, des chercheurs du CNRS vont mener une étude pour observer comment les étudiants changent changent leurs habitudes alimentaires au fil des mois. Mmh. Pour l'instant, sur quelques restos qui ont mené l'expérimentation, plus de 10% des étudiants sont passés au lundi vert et 25% ont l'intention d'essayer.
Pas mal, et à faire à suivre là encore. On termine avec le conseil de votre copine Catherine.
Oui, Catherine, elle traque tous les secteurs de son quotidien qui ne sont pas encore assez verts à son goût. Alors cette fois, elle s'attaque à l'électricité. Elle a quitté le fournisseur historique pour passer au 100% renouvelable, solaire, hydraulique et éolien. Elle a choisi Enercop, c'est une coopérative indépendante, mais il y a d'autres fournisseurs alternatifs. Alors ça lui a pris 5 minutes, ça va lui coûter 7,30€ de plus par mois, mais elle estime que le jeu en vaut la chandelle. C'était le conseil de Catherine Marnier.
Au cœur de cette écho de la planète, chaque samedi avec vous, Virginie Salmen, en charge de l'environnement pour Europe 1. Merci.
Bonsoir.
Et comme chaque samedi, Pierre Herbulot nous met l'eau à la bouche sur Europe 1, Wendy Bouchard. Ce soir, une recette originale.
Ah oui, on part du côté d'Armentières. Il va nous faire découvrir un mélange de chocolat et de champignons. Ça peut être étonnant oh comme là. Ça, mais attendez de voir. Ça vous donnera l'eau à la bouche encore.
Europe 1. 19h30, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et le rappel de l'actualité de ce 12 octobre, Sophie Tussaud.
L'homme interpellé hier à Glasgow et pris un temps pour Xavier Dupont de Ligonnès a été relâché ce soir par la police écossaise. Après des doutes sur les empreintes digitales, les tests ADN ont confirmé qu'il n'était pas l'homme recherché depuis 2011 pour l'assassinat de sa femme et de ses 4 enfants à Nantes, mais un retraité habitant dans les Yvelines et marié à une écossaise. 8 ans après, donc, le mystère reste entier. Plusieurs milliers de personnes anonymes et personnalités rassemblées place de la République à Paris cet après-midi. Un soutien aux Kurdes de Syrie, visé par une offensive turque. 20 000 personnes, selon les organisateurs, ont dénoncé un nettoyage ethnique entrepris par Ankara. Autre rassemblement à Marseille, où des milliers de Kurdes sont également descendus dans la rue. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent. La Turquie affirme avoir pris la ville clé de Ras el Ain dans le nord de la Syrie, ce que des les Kurdes. Des échauffourées à Toulouse cet après-midi lors d'un rassemblement de gilets jaunes, acte 48. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser le cortège. Des vents violents et des pluies diluviennes s'abattent sur le Japon. Le puissant typhon Agibis se dirige vers Tokyo. Au moins 2 personnes ont été tuées. 3,2 millions d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. Et puis un nouvel hommage à Steve Canisso, le jeune homme décédé le soir de la fête de la musique après une charge controversée de la police. Un Technival lui est dédié ce week-end à Sainte-Luce-sur-Loire, une commune tout à côté de Nantes. Près de 15 000 festivaliers sont attendus d'ici à dimanche.
Merci Sophie Tussaud, puisque les auditeurs sont à l'écoute. Je remercie Anna de nous avoir signalé sur le compte Europe 1 que nous avons oublié de mentionner que le français Samir Aït Saïd a décroché une médaille de bronze aux anneaux aux mondiaux de gym et dans le même coup sa qualification olympique au championnat du monde de gymnastique artistique. Voilà, c'est corrigé Anna et merci pour votre écoute.
Dans l'ombre des grands chefs, c'est maintenant Wendy Bouchard.
Nous y voici avec Pierre Herbulot. Devinons, c'est demain. Vous qui cuisiniez le cèpe la semaine passée, Pierre. Et comme nous sommes dans la belle période des champignons, on continue avec une recette atypique ce soir. Des champignons au dessert. On vous écoute. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy. Je vous emmène ce soir dans le nord de la France, à Armentières, dans le restaurant Nature de Nicolas Gauthier.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir comme plat? Je crois même d'ailleurs, je dis plat, mais c'est un dessert.
Ouais, c'est un dessert. C'est un dessert autour du chocolat blanc, des champignons, parce que j'apprécie pas mal les champignons. Là, on est en automne, donc c'est parfait.
Chocolat, champignons.
Ça peut paraître bizarre au premier abord, mais en fait, on se rend compte très vite que ça fonctionne super bien, parce qu'on va utiliser un champignon qui s'appelle le rosé, qui est une variante du champignon de Paris. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en croquant dedans, à cru, chez le producteur chez qui on les ramène, que ce champignon-là avait un goût de noix, noisette, amande, quand on consommait cru comme ça, à pleines dents. Et moi, quand je pense noix, noisette, amande, je pense dessert.
Par contre, comment ?
On fait le namelaka. Donc, le namelaka, c'est une préparation à base de chocolat blanc, de crème. Là, on part sur 250 grammes de chocolat blanc. Il faut vraiment privilégier un chocolat blanc de qualité, c'est important. On va y incorporer tout de suite en fait 25 centilitres de crème liquide qu'on va mettre à chauffer à feu doux et surtout en mélangeant le plus régulièrement possible pour pas que ça accroche. On le fait chauffer doucement, on le fait fondre comme si on allait faire une sauce chocolat finalement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va la mettre au frigo.
Vous en avez préparé une d'avance qui est là.
Voilà, exactement. Là à ce moment-là, on va la mettre au batteur et on va la monter en chantilly. Dans l'idée, c'est ça. C'est lui incorporer de l'air pour la rendre en fait plus légère.
Pour manger plus comme ça.
Et aussi, c'est ça, exactement.
Alors, pendant que la crème monte doucement, je vous préviens que le chef Nicolas Gauthier a aussi préparé un biscuit madeleine. On n'a pas le temps de vous le montrer, mais la recette est à retrouver sur europe1.fr.
Donc une fois qu'on a toutes ces préparations-là,
on est plutôt sur des dressages très simples.
Les desserts, c'est quelque chose qu'il faut. Voilà, c'est des préparations où il y a de la glace, il faut que ça aille assez vite et tout. Donc...
Ah oui, vous le faites avec les mains.
Ah bah, c'est de la madeleine, hein, c'est de la gourmandise.
Hop. Je raconte juste. En fait, vous avez pris un morceau de madeleine dans la main, vous l'avez écrasé, vous le mettez
tout simplement. Voilà. Là-dessus, je vais aller chercher notre glace yaourt pour amener de la légèreté au dessert. C'est ce qui va dégraisser un peu le chocolat, c'est l'acidité. Toc.
Cette glace, on va la recouvrir donc avec notre namelaka.
On va dire qu'on a l'équivalent d'une cuillère à soupe pour la glace. Pareil pour la madeleine, tout est un peu dans l'équilibre. Et dans le namelaka chocolat blanc, une grosse cuillère à soupe.
Là, on est bien. Et après.
Et alors là.
Alors, les champignons, coupés le plus fin possible. Vraiment, plus ce sera fin, mieux ce sera. Donc là, pour une personne, suivant la taille du champignon, on fait un champignon et demi, quoi. On recouvre quasiment l'intégralité du dessert. Et puis là, ben voilà, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à manger, hein, tout simplement.
Bon, on va s'en occuper.
Ah, oui, bah oui, carrément.
D'abord, moi, je trouve ça vachement bon. Je suis très étonné.
Association.
Ben, et ça fonctionne parfaitement, en fait. En plus, le champignon cru comme ça, il apporte un petit, même une douceur, effectivement. Ouais, vous disiez des notes de noisette. Merci, chef. Wendy, je reviens vers vous et vers nos auditeurs gourmands. N'hésitez pas une seconde à tenter le champignon chocolat. Bien dosé en suivant la recette du chef, ça fonctionne à merveille.
Pierre Herbulot, et ça fonctionne à merveille aussi le site europe1.fr puisqu'on peut y retrouver cette recette étonnante.
Et vous savez quoi, on a Thibaut Normand qui est à fond sur les recettes, donc on attend de goûter avec lui. Et Caro Momtaupe qui est avec nous en studio avec ses enfants ce soir. Emma et Thomas, on est très heureux parce qu'Europe 1 c'est aussi votre maison les amis. Donc venez si vous voulez.
Une semaine en Europe 1, voici les moments forts de l'antenne ces derniers jours.
C'était lundi dans la chronique Innovation. Anissé Mbida nous parle d'une incroyable machine à détricoter les vieux vêtements pour en faire des bobines de coton, recyclage et lutte anti-pollution.
La nouveauté, c'est d'automatiser encore plus le processus de fabriquer des bobines d'un coton très fin, impossible à distinguer d'un fil classique. Ils ont un objectif, mais vraiment très ambitieux, hein, c'est de faire de la France un fournisseur de coton. Hein, du coup, il n'y a plus besoin d'aller en Chine, plus besoin d'aller en Inde. On aura une production locale, tout ça grâce à nos vieux vêtements. Donc ne les jetez pas, pensez à les apporter aux recycleries et aux points relais chez Emmaüs par exemple.
Mardi, chez Sonia Mabrouk, l'inquiétude de l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic après l'attentat à la préfecture de Paris et l'islam politique rampant.
On a pendant 40 ans laissé cette idéologie mortifère se répandre, vraiment partout. Qu'on a eu des alertes avec des enfants de généraux, etc., partir faire le djihad, etc., enfin, tous les milieux sociaux, absolument. On voit maintenant qu'il y a eu des militaires qui sont radicalisés, des policiers, donc des gens qui sont les fonctions régaliennes, qui assurent la sécurité. Un jour, on trouvera peut-être un juge radicalisé, j'en sais rien. Tout est envisageable. Et c'est ça, on ne se rend pas compte que Ça s'est dilué sur toute la société française, cette problématique.
Mercredi, Nicolas Canteloup, dans la peau et dans la voix de Francis Cabrel, qui prépare un nouvel album pour l'année prochaine.
Bonjour, petite Julie. Bonjour à toi, Mathieu Béliard. Bonjour. Petit taureau de l'info lancé dans la corrida des matinales.
J'adore.
Bonjour à tous dans cette matinale, même si vous avez les paupières lourdes comme des bouteilles de butin à se lever à des 2h du matin. Ou des bouteilles de Ricard pour l'holocabre.
Bonjour, je les mange, je t'en toutes les sauces. Moi, je suis une forme de bouc émissaire.
Ah, le bouc émissaire. Bonjour à toi, Fanny Agostini, dans ta petite ferme du Cantal, en Haute-Loire, du côté de la Bretagne.
Jeudi, Ondelat raconte la verve de Jeanne Saccomano, l'ami Sacco, qui n'a jamais voulu se départir de son accent et de sa fantaisie, avec des frissons à la clé, comme en 98.
Trezeguet qui frappe, but ! But à mort ! But à mort ! But à mort de Trezeguet ! Trezeguet, l'homme qui fait des miracles ! Trezeguet, l'homme qui à chaque fois nous donne la victoire ! Un mouvement exceptionnel ! Petit qui va marquer le troisième but ! Et troisième but, 3-0 ! Ils sont tous ensemble ! La France entière est championne.
Ça fait sensation encore. Hein. Et puis c'était hier la marraine du Pasteur Don depuis 9 ans, Alexandra Lamy, qui déclare sa flamme aux chercheurs de l'Institut Pasteur.
J'ai la chance de pouvoir à chaque fois aller voir des chercheurs qui me racontent. Donc là, on a eu la résistance aux antibiotiques, la dernière fois c'était sur le HIV, la dernière fois sur les cancers, etc. Mais donc voilà. Et puis c'est vrai que les chercheurs, ils ont. Mais moi, je les adore d'abord parce que c'est notre santé et que c'est important, que c'est un travail énorme qu'il faut, que tout ça coûte énormément d'argent et que c'est pour ça qu'on fait appel à la générosité du public et qu'ils ont toujours une façon de vous expliquer extrêmement facile, extrêmement simple et qu'on les aime, c'est eux les héros.
Alexandra Lamy, le Pasteur Don, et collecte des dons jusqu'à demain dimanche, Marlène.
Oui, puis Anne Romanoff est notre ambassadrice pour Europe 1. Vos dons sont les bienvenus sur pasteurdon.pasteur.fr. C'était une semaine en Europe 1.
Merci Marlène, à tout de suite pour l'œil de Frédéric Dabi, un œil qui va loin et qui voit loin à 5 mois des municipales. L'IFOP souligne une prime au sortant. Les Républicains pourraient se refaire une santé. On a commencé à amorcer la question avec Pascal Perrineau et on y revient.
Europe 1. 19h42, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec vous, Annie Bouchard, et avec l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy.
Votre œil regarde le futur proche, disons, pour les municipales 2020, dans un peu plus de 5 mois. Votre institut IFOP avec Fiducial a révélé cette semaine une enquête qui traduit l'attachement assez fort des Français aux maires sortants.
Oui, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que c'est que le scrutin municipal ? C'est un scrutin qui favorise les sortants. Où la règle, c'est de conforter les sortants plus que de s'inscrire dans une logique dégagiste. Et pourquoi ? Car, comme vous le dites, il y a un attachement extrêmement fort à la figure du maire. Le maire bénéficie d'une forte confiance dans toutes les enquêtes, quelle que soit la question qui est posée, car le maire échappe au scepticisme ou au discrédit qui touche les élus nationaux, tout simplement parce que le maire agit. Le maire transforme, le maire change la vie quotidienne et pèse sur le cours des choses. Dans un sens, il respecte la promesse du rapport aux politiques des Français. Les politiques sont là pour transformer le quotidien.
Vous êtes allé dans le détail avec les électeurs d'Emmanuel Macron qui, pour 70% d'entre eux, se déclarent aussi satisfaits de leur maire. Ça, c'est la fourchette très haute. La satisfaction, quand même, elle est lisible dans toutes les étiquettes politiques.
Oui, elle est extrêmement forte, même si le degré d'exigence des habitants augmente.
Bien sûr.
Le maire est souvent à portée d'engueulade. On a vu aussi des agressions physiques à leur égard. Il y a un degré d'exigence qui augmente parce que les Français sont inquiets de la situation nationale et sont tentés par un retour sur le local. Ce qui est compliqué, vous en parliez, pour les électeurs d'Emmanuel Macron, alors qu'ils n'ont que très peu de maires sortants, il y a très peu de maires sortants en marche, ou quasiment pas, ils sont plutôt plus satisfaits de la moyenne que leur maire. Tout cela annonce des élections compliquées pour le pouvoir en place, puisque quand on regarde les déterminants du vote pour les élections municipales, ce sont des déterminants très différents pour les élections européennes. Pour une élection municipale, on va voter pour une alchimie, bilan de l'action municipale, projet, personnalité, qui est favorable aux sortants et qui favorise très peu En Marche, qui a peu d'élus de terrain et qui est très peu implanté localement. Le contexte municipal sera sans doute plus compliqué pour En Marche comparé aux élections européennes. On était sur un vote d'étiquette, un vote de marque, où on votait en fait pour Emmanuel Macron.
Ça veut dire, Frédéric Dabi, que cette prime au sortant, alors qu'on est en plein congrès Les Républicains, favorise le parti de l'opposition, clairement ?
Oui. Clairement, oui, ces élections qui s'annoncent le 15 et 22 mars vont être sans doute favorables aux partis qui représentent l'ancien monde, les Républicains et le PS, tout simplement car ils ont énormément de sortants. On se souvient de la vague bleue lors des municipales de 2014, 170 villes perdues par la gauche, qui a encore beaucoup belles villes, si je puis dire, dans leur escarcelle. Pour autant, ce que montrent les premiers sondages que l'IFOP réalise à 6 mois des élections municipales, c'est, s'agissant de la gauche, une très forte poussée du vote Europe Écologie Les Verts, qui apparaissent même comme la première force de gauche quand le maire socialiste d'une ville donnée ne se représente pas.
Donc on est vraiment dans l'impulsion des européennes, pour le coup ça dure.
Oui, tout à fait, c'est le seul cas où il y a une sorte de matrice ou de continuité entre ce que l'on a vu aux élections européennes, poussée du vote Europe Écologie Les Verts, et ce que l'on voit pour l'instant dans les enquêtes préélectorales pour les élections municipales. C'est en lien avec tout ce que l'on a dit dans des chroniques précédentes sur l'urgence climatique et la montée de l'environnement comme première préoccupation des Français avec la santé.
À 6 mois des municipales, Frédéric Dabi, vous enquêtez avec l'IFOP. Il y a un autre acteur qui est à suivre évidemment dans cette optique électorale, c'est le Rassemblement National, qui peut prendre des villes dans une autre dynamique.
Clairement, oui, la percée de 2014 où le FN avait pris 10 villes va sans doute être confirmée.
D'accord.
On pense à Perpignan qui pourrait tomber dans le giron du Rassemblement national. Et très clairement, moins dans des grandes villes où le FN est en difficulté, c'est plutôt dans des petites villes, des villes moyennes de 10 000 à 30 000 habitants, où le sentiment d'abandon, le sentiment que la ville est en déclin, ce qui est matérialisé par le recul ou la disparition des services publics, tout ça, ce sentiment que sa ville a perdu de sa superbe, qu'on n'est plus dans une situation favorable, tout ça pourrait alimenter un vote pour le Rassemblement national dans des petites villes du Bouches-du-Rhône ou du nord-est de la France.
Voilà pour cet œil qui se projette sur les municipales. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur une conjugaison de faits et d'inquiétudes qui vous font réagir également, Frédéric Dabi. L'assaillant à la préfecture de police de Paris, évidemment. Cette institutrice qui filme son agression par deux femmes, des parents d'élèves, d'une violence incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous tout ça, Frédéric ?
Bah ça, déjà, ça exacerbe une inquiétude très forte de la part des Français sur les services publics. Hein. On sait comme les Français sont attachés aux services publics, comme cette question n'est même plus maintenant clivée entre les gens de gauche et les gens de droite. Il y a un attachement très fort, il y a une vision extensive de ce que sont les services publics, ce sont des services au public. Et sur les questions dont vous parliez, Wendy, c'est-à-dire la directrice menacée, il y a eu aussi le suicide d'une directrice d'école à Pantin, un jeune qui s'est fait assassiner, un jeune de 15 ans, on voit, et les Français nous disent que l'école n'est plus un sanctuaire. Il y a eu déjà, il y a un an, l'affaire de Créteil où un élève avait menacé avec une arme factice une enseignante. Très clairement, c'est un phénomène anxiogène pour les parents, puisque plus que jamais, ils investissent beaucoup sur l'école dans une dimension méritocratique. Et c'est une manière d'atténuer ce qui est au cœur du pessimisme français. Dans toutes les enquêtes, on voit qu'une part très importante des Français, quasiment deux tiers, ont le sentiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Donc ces différents événements érodent la confiance à l'égard d'une institution scolaire qu'on voyait comme un sanctuaire, qu'on voyait comme un monde à part où les enfants pouvaient apprendre, réfléchir et devenir de bons citoyens.
Une école qui n'est plus protégée, vous parliez aussi des bastions de la République et tout à l'heure on l'évoquait avec Mohamed Sifaoui, l'entrisme, la radicalisation dans ces secteurs qui étaient jusqu'à présent préservés, police, peut-être même justice demain.
Oui, et là aussi, l'inquiétude est forte. On vient de publier une enquête, IFOP fiduciale pour CNews, où on a une majorité de Français, dans le contexte de l'assaillant de la préfecture de police, qui ont le sentiment que les pouvoirs publics ne sont pas capables, ne sont plus capables, à 60%, à identifier ces personnes radicalisées dans le monde scolaire, dans le monde hospitalier. Ça aussi, c'est un facteur inquiétant et qui érode le vivre ensemble.
Frédéric Dabi, et votre œil, votre regard sur l'actualité et le ressenti par les Français. Merci, c'est chaque samedi sur l'antenne d'Europe 1 dans votre grand journal. À samedi prochain, Frédéric.
Au revoir, Wendy.
Dans un instant, une date, une histoire, une personnalité se souvient.
Et ce soir, l'ancien footballeur, désormais acteur, Franck Leboeuf nous raconte l'appel de l'abbé Pierre. C'était le 1er février 1954.
Et c'est sur Europe 1. h 20 le week-end sur Europe 1, vous écoutez Wendy Bouchard. C'est la suite de votre grand journal du soir. Il est maintenant 19h51. Les Tours du Monde en jet privé TMR vous présentent l'entretien de Philippe Legrand.
Un jour, une histoire avec Paris Match et Philippe Legrand qui, chaque samedi, sur Europe 1, reçoit une personnalité. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy. Bonsoir à tous. Bonsoir Franck Leboeuf.
Bonsoir.
Bienvenue.
Philippe.
Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre ami comédien, bonsoir, Nicolas Vitiello.
Bonsoir.
Pour une date qui mérite des voix. Des voix pour des 100 voix. Vous avez choisi tous les deux de nous raconter, c'est votre choix aussi Franck, Leboeuf, le 1er février 1954, l'abbé Pierre prend la parole. On va se remettre dans le contexte. D'abord, un mot. Quand vous entendez sa voix, vous la réentendez, on peut réécouter cet appel. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Bon, on sent une profondeur d'âme extraordinaire. C'est quelqu'un qui a sauvé des milliers de vies, qui a définit un système avec la charité des gens et l'envie d'aimer et de partager. Et cet appel, il est universel, il est monstrueusement beau, parce qu'il est monstrueusement tendre. En même temps qu'il donne un ordre, il définit quelque chose de très tendre, il a envie que les gens se mettent à aider les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce spectacle et que je suis toujours ému quand je regarde Nicolas sur scène faire cet appel.
Alors, on va revenir sur ce 1er février 1954. Avant de parler de votre spectacle, La Voix des Sans-Voix, et raconter cet abbé Pierre, il faut se remettre dans le contexte, Nicolas Vitiello. On est dans cet hiver, il fait très froid dans toute la France.
C'est un hiver glacial, il fait moins 15. Il y a même une banquise à Dunkerque, à ce moment-là, pour dire les cours d'eau gèlent. Donc, on est vraiment dans un froid extrême. Et on est aussi dans une France de l'après-guerre qui se reconstruit difficilement. Il y a une crise du logement qui est majeure. On est en 54. Tout ça est très frais. Et l'abbé Pierre est député à cette époque-là. Et un député qui est dans l'action, puisqu'il a déjà créé Emmaüs en 49, il y a 70 ans aujourd'hui. Et on est avec un homme d'action qui est sur le terrain. Et en fait, l'État décide...
Le résistant qu'il a toujours été.
Le résistant qu'il a toujours été, exactement. Et l'État décide de prendre comme mesure la construction de logements sociaux. Mais dans le temps, ça met 3, 4, peut-être un an à construire. L'abbé Pierre dit à l'Assemblée nationale qu'il faut des logements d'urgence, parce que les gens sont en train de mourir de froid. Et l'Assemblée nationale rejette la demande de l'abbé Pierre, et ce qui fait que l'abbé Pierre va être hystérique de colère, parce qu'un bébé va mourir de froid au camp des Coquelicots, un camp d'Emmaüs qu'il avait créé, et une femme va mourir avec un papier d'expulsion. Ça lance l'appel.
Alors justement, tous les deux, Franck Leboeuf et Nicolas Vitiello, vous qui, Franck, maintenant êtes comédien, vous êtes dans un autre stade, j'allais dire, et vous, Nicolas Vitiello, je vais vous demander, Nicolas, d'abord de commencer cet appel avec votre voix de comédien, comme si finalement c'était lui.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée.
Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreurs, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent.
Franck Leboeuf et Nicolas, merci pour ces voix-là qui sont les vôtres, les voix des sans-voix et auxquelles tenait l'abbé Pierre. Est-ce que l'un d'entre vous la rencontrait, vous croisez
Non, malheureusement, l'abbé est décédé en 2007, janvier 2007, le jour de mon anniversaire, le 22 janvier. Et malheureusement, non. Je pense que c'est des gens qu'on aurait aimé rencontrer parce que ces gens-là vous donnent quelque chose de positif quand vous parlez avec eux, quand vous les rencontrez, il y a quelque chose de bien. Mais malheureusement, non, on n'a pas eu cette chance-là.
Nicolas Vitiello, il avait aussi cette phrase, hein, je le dis à tous les deux, Franck Leboeuf, l'insurrection de la bonté. Au fond, il faut capter l'attention de l'opinion sur ces grandes questions de solidarité. C'est comme ça aussi que vous l'avez perçu, oui. Nicolas Vitiello.
Oui, l'abbé Pierre avait cette force incroyable de savoir extrêmement bien manier la langue française et il s'adressait avec le cœur. Donc forcément, quand il a fait cet appel, c'est 10 phrases hein, sur un bout de papier, mais il a eu les mots justes, il a eu l'intention juste et en fait, ça a réveillé les consciences de tous les Français et il y a eu cette insurrection de la bonté. Il a été complètement dépassé par la générosité des Français qui a été au-delà de ce qu'il espérait.
La Voix des Sans-Voix, c'est votre spectacle, Nicolas Vitiello. Vous êtes dans les habits de l'abbé Pierre sur scène au Théâtre Grévin. Comment vous rentrez dans les habits, Nicolas Vitiello, de cet abbé ?
C'est très simple, il faut que je m'efface totalement. Et le texte, les mots qu'il nous a laissés sont tellement forts que je me laisse glisser et surfer sur ce qu'il dit. Et la magie s'opère très simplement. L'abbé Pierre est avec nous sur scène tous les soirs.
Merci à tous les deux, Franck Leboeuf, Nicolas Vitiello, d'être venus nous raconter cette page de l'histoire. L'appel de l'abbé Pierre, 1er février 1954. La Voix des Sans-Voix est à voir tous les lundis au Théâtre Grévin à Paris, jusqu'à la fin du mois d'octobre, et à lire pour les 70 ans d'Emmaüs, le livre sur l'abbé Pierre. À bientôt.
Au revoir, merci.
Merci.
Merci Philippe. Et c'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR, les tours du monde en jet privé. Inscrivez-vous au 45e tour du monde en jet privé en appelant le 04 91 77 88 99.
Merci Marlène. Fabien Lecoeuf, vous êtes resté avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir chaque semaine. Et nous avons donc en studio deux de nos plus jeunes auditeurs, j'imagine, Emma et Thomas. Alors, vous avez été scotchés par la chronique de la semaine dernière de Fabien Lecoeuvre. On refait l'actu, on refait la chanson avec Chantal Goya. Imaginez qu'ils podcastent l'émission, qu'ils écoutent ça dans leur lit avant de s'endormir. Ça fait plaisir, ouais. Fabien Lecoeuvre. Chantal Goya, éternel, on revient.
Inoxydable Chantal Goya qui triomphe en ce moment dans toute la France après avoir triomphé le week-end dernier sur scène à Paris.
Bah voilà, ouais. C'est parti.
C'est plutôt bien. Mais bon. J'ai bien écouté l'appel de l'abbé Pierre.
Oui.
Parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Pierre, moi.
Oui.
Peu de temps avant sa disparition, qui m'avait confié les coulisses d'une émission de notre ami Michel Drucker. Il m'avait dit qu'il a fait cet appel tout simplement parce que dans la nuit du 30 au du 30 janvier au 31 janvier, une femme avait été expulsée de chez elle, boulevard Sébastopol, elle était morte de froid. Ça avait déclenché chez lui une révolte intérieure incroyable, et à partir de là, il fait son appel.
Merci pour cette anecdote, Fabien Lecoq. On vous retrouve demain et on parlera de Renault. Merci, chers amis auditeurs, pour votre fidélité. À demain avec Naïma Benchemann à la programmation. Jérémy R.B. Non.
Jérémy Hébert.
Qui remplace Kevin. Exceptionnellement.
Cette dyslexie qui remonte en fin d'émission.
Et moi, je vous dis à demain.
Et Marlène Duret, merci
à
beaucoup.
18h. À demain.
Et on va retrouver Lionel Rousseau.
Merci. Oui, Lionel, bien sûr.